Lettre de Frère Joseph Branham du 19 juillet 2026. Les aigles se rassemblent. Chère épouse de Christ, rassemblons-nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la vision de Patmos du 4 décembre 1960, le soir. Frère Joseph Branham.
Comme frère Neville faisait ses annonces que frère Mort disait l'autre jour, parlant de l'Esprit du Seigneur, qui était entré, qui était venu dans le bâtiment. Il a dit, c'était si glorieux que j'ai pensé que l'enlèvement avait eu lieu. J'ai même regardé autour de moi et j'ai vu les autres assis là. Donc j'ai dit, non, ça n'a pas encore eu lieu. Parce que s'ils sont encore ici, alors je sais que je suis encore ici. Donc parfois, l'Esprit du Seigneur agit de manière si merveilleuse envers nous. Nous sommes si contents d'avoir parmi nous, dans ce bâtiment, de nombreux amis. Ils sont trop nombreux pour qu'on essaye de les nommer. Je viens tout juste de voir entrer frère Carpenter, l'homme qui nous a mariés, ma femme et moi. Frère Carpenter a été une grande bénédiction pour nous, ici à l'Église. Et il a été une bénédiction pour nous dans le ministère. Il prêche partout, presque n'importe où. Nous sommes contents de l'avoir ici parmi nous. Et, oh, tant d'autres. Bon, il y a ici une autre question qui m'a été remise hier soir. Frère Branham, les cinq vierges folles de Matthieu 25 sont-elles considérées comme le reste des nations? Si j'ai bien compris, les cinq vierges folles sont sauvées, mais elles devront passer par la période de la grande tribulation. Est-ce exact? Si oui, quelle sera leur destination finale? Pourrait-il s'agir là des brebis qui sont séparées des boucs dont il est question dans Matthieu 25, 33 et 34? C'est un assez bon théologien, selon ce que je... Le pense aussi qu'il s'agit là du reste. La Vierge endormie est le reste dont on parle dans l'Apocalypse, de la semence de la femme, celle qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus-Christ. Une femme prend un morceau de tissu et l'étale. Eh bien, elle y taille son... où elle prend son patron et le pose où elle veut, en fonction de la façon dont elle veut le couper. Puis, ce dont elle ne se servira pas s'appelle le reste. Mais, par son libre arbitre, elle décide de le découper à un certain endroit. Mais ce dont on ne se sert pas s'appelle le reste. Maintenant, si vous remarquez bien, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Elles étaient toutes vierges. Elles étaient faites de la même substance. Mais par élection, Dieu a choisi son épouse par élection, avant la fondation du monde, et a écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde. Dès avant le commencement du monde, Dieu dans sa pensée, puisqu'il est infini, nous employons parfois le mot prédestination, mais c'est un mot qui achoppe dans cet âge de l'Église où nous vivons. C'est certainement quelque chose de glorieux qu'on employait du temps des martyrs, parce qu'ils y croyaient certainement. Mais on s'en est éloigné aujourd'hui, au profit des idées légalistes, de la doctrine légaliste qui est apparue dans l'Église. C'était une bonne chose, parce que le calvinisme avait tant envahi l'Angleterre qu'il n'y avait même plus de réveil. John Wesley est arrivé et a prêché la doctrine arminienne, ce qui a rééquilibré les choses. Dieu rééquilibre toujours les choses. Ainsi donc, les vierges folles étaient celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe et qui, je crois, avaient été jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Et si vous étudiez cela en suivant les annotations, cela vous ramènera directement à la grande tribulation. Je pense que ce sont elles qui resteront et qui passeront par la grande tribulation. Ce serait toute une leçon là, si on avait le temps d'approfondir ça. Si vous... Bon, quand vous écoutez les bondes, souvenez-vous, j'ai dit ceci dès le départ. Ces choses correspondent à ce que je crois être la vérité. Voyez, maintenant, si c'est faux, moi, je ne suis pas conscient de ça. Je ne peux dire que ce que je crois. Je ne veux blesser personne. Quand nous venons ici, nous devons mettre nos sentiments de côté, prendre ce qui a été dit et examiner cela pour voir si c'est vraiment selon les Écritures ou pas. C'est la meilleure manière de le faire. Puis, en effet, dans un jour comme celui où nous vivons maintenant, dans un pays où l'on a glané à maintes reprises, maintes et maintes fois, avec toutes sortes de choses, eh bien, c'est difficile d'amener les gens à vraiment saisir les vraies choses en comparaison d'un territoire vierge. Là, on leur parle, ils y croient, et voilà, c'est ça. Mais ici, quelqu'un arrive avec cette idée-ci, et un autre arrive avec cette idée-là. Et nous avons plus de 900 différentes églises dénominationnelles, dont l'enseignement de « chacune s'oppose à l'autre ». Il doit bien y avoir quelqu'un qui est dans l'erreur et quelqu'un qui est dans la vérité. Ainsi donc, la seule manière de prouver ces choses, c'est de les ramener à la Bible. Voyez, à la Bible. Bon, très souvent, les gens y ajoutent leur interprétation personnelle. Mais nous faisons vraiment de notre mieux pour n'y ajouter aucune interprétation humaine. Lire cela exactement comme c'est écrit et dire « c'est comme ça ». Et aussi, j'ai toujours constaté que si on s'en tient uniquement à ce qu'il a dit, cela fera que tout se raccorde parfaitement dans les Écritures. C'est presque comme assembler les morceaux d'un puzzle. Il faut regarder le modèle pour pouvoir assembler le puzzle correctement. Sinon, comme je l'ai toujours dit, vous vous retrouverez avec un tableau dans lequel une vache broute au sommet d'un arbre. Il y aurait donc quelque chose qui cloche. Et si nous laissions simplement le Saint-Esprit, qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit. C'est poussé par lui que des hommes ont écrit la Bible. Donc, sans le Saint-Esprit, peu importe votre très grand niveau d'instruction, vous ne la comprendrez jamais. En effet, même Jésus a loué Dieu de ce qu'il avait caché cela aux sages et aux intelligents, et de ce qu'il révélerait cela aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Tous les disciples étaient plus ou moins illettrés, des gens sans instruction, à l'exception d'un seul, Paul. Et Paul a dit qu'il a dû renoncer à tout ce qu'il savait pour trouver Christ. Alors, il a dit à l'église de Corinthe qu'il n'était pas allé chez eux avec la sagesse des hommes et une supériorité de langage, afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'il était allé chez eux avec la puissance, la démonstration du Saint-Esprit, afin que leur foi repose sur les œuvres du Saint-Esprit conformément à la parole de Dieu. Et c'est là que nous essayons de nous accrocher fermement en ce moment, parce qu'avant la fin de cette semaine, ou une fois que la semaine sera écoulée, vous verrez cela, que c'est exactement ce qui a été, ce petit fil conducteur qui traverse l'âge d'un bout à l'autre. Merci d'avoir placé le tableau un peu plus haut. C'est plus beau ainsi. Bon, oh nous, j'aimerais qu'on reste sur cela tout l'hiver. Ainsi, on pourrait prendre tout le livre de l'Apocalypse et le parcourir en entier. Il renferme de très merveilleux enseignements. Et je me souviens, il y a 20 ou 25 ans, je pense, quand l'Église était encore à ses débuts, nous avons commencé cela au début d'un automne, et nous y sommes restés presque jusqu'à l'automne suivant, à parcourir le livre de l'Apocalypse. Là, je me souviens, quand on avait pris le livre de Job, « Oh, frère Wright, je suis resté si longtemps là-dessus qu'une femme m'a finalement écrit pour me poser une question. Elle m'a demandé, « Frère Branham, allez-vous un jour relever Job de ce tas de cendres ?» Eh bien, j'essayais de faire ressortir quelque chose, parce que c'est là que tout aboutissait, à ce point là où l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, quand les éclairs se sont mis à briller et le tonnerre a grondé. L'Esprit est venu sur le prophète et il a vu la venue du Seigneur. Et je voulais bien faire comprendre cela. C'est la raison pour laquelle je l'avais gardé sur ce tas de cendres si longtemps, pour faire ressortir ce point-là. Je sais que ça peut devenir un peu ennuyeux, parfois. Moi aussi, je deviens nerveux quand j'entends quelqu'un tourner autour du pot, quand, pour moi, il devrait aller au but. Mais c'est peut-être Dieu qui conduit cette personne comme ça, dans un but précis. Bon, revenons à ce reste, avant de quitter la question. J'espère rendre cela clair. Je crois vraiment que c'est Dieu qui a choisi ce reste. Je crois cela, que Dieu a choisi le reste avant la fondation du monde, et qu'il l'a fait par sa préscience, pas le mort. Maintenant, considérez la prédestination, voyez, parce que parmi les gens, c'est un petit mot épineux, voyez. Mais Dieu, avant la fondation du monde, dans sa grande pensée infinie, a choisi l'Église, a choisi Jésus, a choisi l'Église et a pu prédire au commencement ce qui arriverait à la fin. Il, s'il est infini, il n'y a rien qu'il ne savait pas. Il connaissait chaque puce qu'il y aurait sur la terre et combien de fois elle clignerait des yeux. Maintenant, voilà comment, et la quantité de suifs qu'elle donnerait, et la quantité qu'elle donnerait toutes ensemble. C'est ça l'infini. C'est l'infini. Simplement impossible d'expliquer cela. Et Dieu, c'est ce qu'il est. C'est un Dieu infini. Aussi, si vous remarquez, la Bible dit que l'Antichrist qui viendrait sur la terre dans les derniers jours, maintenant, écoutez attentivement. Ça, c'est la seule faille. Je pense qu'il pourrait en trouver des millions dans les miens. Mais en ce qui concerne ce sermon remarquable que notre précieux frère Billy Graham a prêché l'autre jour, dimanche dernier, je trouve vraiment que c'était un message qui tombait à point. Mais il a dit que Satan est en train de séduire même les élus. Non, la Bible dit qu'il séduirait les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible, parce que Dieu les a choisis dès avant la fondation du monde. Voyez, l'agneau, Jésus-Christ, était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Même quand Dieu a dans sa pensée une parole, une fois qu'il la prononce, cette parole ne peut jamais être changée, elle ne peut jamais être modifiée. Voyez, parce qu'il il est infini et ses paroles s'accompliront. Pensez-y, la même, la terre où nous nous trouvons ce soir, c'est la parole de Dieu manifestée. Le monde a été formé par des choses qui ne sont même pas visibles. Il a simplement dit que ceci soit et cela a été. Combien c'est facile alors pour ce Dieu de guérir un corps malade, s'il peut faire une création simplement en prononçant la chose. Vous voyez, sa parole. Si seulement nous pouvions avoir la foi pour comprendre ce qu'est sa parole. Nous sommes tellement attachés à la terre, et il y a une telle accumulation dans notre esprit que nous, oh, je ne sais pas, nous avons tellement été endoctrinés, un vaccin de celui-ci et un vaccin de celui-là, et c'est à un point tel qu'on est totalement embrouillé. Mais si jamais vous pouviez vous débarrasser de tout ça, faire volte-face et reconnaître qu'il est Dieu et que ses paroles ne peuvent pas plus faillir que lui ne peut faillir. Si cette parole faillit, alors Dieu faillit. Et si Dieu faillit là, il n'est pas Dieu, voyez? Alors, souvenez-vous, il ne peut pas dire une chose ici et dire autre chose là. Il doit s'en tenir à sa première décision pour être Dieu. Alors, nous devons... Et il ne nous demande qu'une chose, croire que ce qu'il a dit est la vérité. Et il le fera s'accomplir. Oh, que c'est beau! Si vous vous attendiez à ce que quelque chose de spontané se produise, parfois, cela requiert tout juste un peu de foi. Ça ne produira pas de miracle. Mais si vous vous y accrochez, ça vous tirera d'affaire. Tenez-vous-en simplement à cela. Comme il a dit, le grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Mais l'avez-vous déjà remarqué? La moutarde ne se mélange à rien d'autre. Vous ne pouvez pas croiser la moutarde avec quoi que ce soit. Ça ne se croisera pas. Et si vous avez la foi, juste un peu de foi qui ne se mélangera à aucune incrédulité ou à aucun système religieux ou à des dogmes, tenez-vous-en strictement à Dieu, tenez-vous-en strictement à cela, et ça vous fera traverser le brouillard, ça vous en fera sortir. Oui, tenez-vous-en à cette foi. Maintenant, au commencement, quand Dieu... La Bible dit dans l'Apocalypse que l'Antichrist, dans les derniers jours... Maintenant, regardez toutes ces églises qui se rassemblent. Dans les derniers jours, l'Antichrist séduirait tous ceux qui sont sur la terre et dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Quand est-ce que votre nom a été inscrit dans le livre de vie? Avant même que nous ayons un monde, vous aviez été choisi pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Je me joins à Eddie Perronet pour dire « J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je ne naviguerai plus les mers de doute. La tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, nous sommes à l'abri. Rien ne peut nous séparer. Dieu ne peut pas, ne revient pas sur sa parole. Et s'il est infini et qu'il vous donne le Saint-Esprit ici, sachant qu'il va vous perdre là-bas, comment dirige-t-il donc ses affaires? Si vous n'êtes pas séduit dans votre expérience, si vous avez le Saint-Esprit. Mais regardez ce que dit la Bible dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au prochain réveil. Est-ce que ça sonne juste? Vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à quand? Jusqu'à votre rédemption. Prenez un wagon de marchandises que l'on charge sur la voie ferrée. Quand c'est totalement chargé, là, on ne peut pas encore fermer ce wagon. L'inspecteur doit passer. Il doit inspecter pour voir s'il n'y a pas quelque chose de branlant qui va bouger. Le wagon de marchandises pourrait être entièrement chargé. Mais s'il trouve des choses branlantes, il faut recommencer le chargement. Voilà ce qui fait que bon nombre d'entre nous ne reçoit pas le Saint-Esprit. Quand l'inspecteur passe, il trouve beaucoup de choses branlantes, vous voyez. Donc, il ne peut pas encore y apposer son sceau. Un grand théologien est venu me voir l'autre jour. Non, pas l'autre jour, il y a 3 ou 4 ans. Et il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. » Il a dit, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » J'ai dit, « C'est vrai, c'est exact. » Il a dit, « Qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus que croire ?» J'ai dit, « C'est tout ce qu'il pouvait faire. » Il a dit, « Alors, où voulez-vous en arriver avec cette histoire du Saint-Esprit en dehors de ça ?» Or, vous savez, c'était un baptiste. Il a dit, « Où voulez-vous en arriver avec ce Saint-Esprit ?» Il a dit, « Si un homme croit, à l'instant vous croyez, vous avez reçu le Saint-Esprit. » J'ai dit, non, non, là vous créez une contradiction dans les Écritures. Les Écritures ne se contredisent pas, voyez. Paul leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et il a dit, eh bien, j'ai dit, il est vrai qu'Abraham, le père de la foi, avait reçu la promesse de Dieu, qu'il avait cru Dieu et que cela lui avait été imputé à justice. Mais il lui avait donné le sceau de la circoncision comme signe qu'il avait accepté sa foi. Eh bien, s'il ne vous a pas encore scellé du Saint-Esprit, il n'a pas encore accepté votre foi en lui, il y a chez vous des choses branlantes. Voyez, il se peut que vous soyez un croyant, oui, mais il y a beaucoup de choses branlantes. Mais quand toutes les choses branlantes ont été chargées solidement, alors il vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Voici la confirmation de Dieu qu'il a reçu la foi que vous professez avoir en lui. Abraham a professé sa foi et Dieu a dit, « Je vais donc te donner un signe que tu que je t'ai accepté. » Et il lui a donné le signe de la circoncision. Maintenant, quand vous recevez Christ comme votre sauveur personnel et que vous croyez en lui, si vous lui demandez de purifier votre vie et qu'il revient ensuite avec le Saint-Esprit et vous donne le signe du Saint-Esprit, alors vous êtes scellé jusqu'à votre rédemption. Ce wagon, s'il est mal chargé, une fois qu'il a été très bien chargé, qu'on a fermé la porte et qu'on y a posé un seau, il est scellé jusqu'à sa destination. Les compagnies de chemin de fer vous feraient jeter en prison pour le reste de votre vie. Si vous brisiez ce sceau, on ne peut pas le briser. Il est scellé jusqu'à sa destination. Il n'est pas question que quelqu'un l'ouvre en chemin pour y jeter un coup d'œil, pour l'inspecter, le passer en revue, en retirer certaines choses, y ajouter certaines autres choses. Non, non. Cette église-ci dira, « Eh bien, ce dogme, ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon. » Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est réglé. Vous savez où vous en êtes. Vous savez ce qui s'est passé et vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption, votre destination dans ce voyage terrestre. Oh là là, cela devrait faire que n'importe qui puisse avoir la foi, croire Dieu et simplement s'élever par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ces vierges qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, vous rappelez-vous, la seule chose qui leur manquait, c'était de l'huile dans leur lampe. Pas vrai? La Bible dit que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous oignons d'huile les malades et tout, parce que c'est un symbole du Saint-Esprit. Bon, si le Saint-Esprit n'était pas venu sur elles, alors elles ne l'avaient pas. Et quand il est venu, alors elles ont dit, là, il s'agit des vierges qui avaient de l'huile. Elles ont dit, vous voyez, ils étaient là-bas, dans l'âge de l'Église. Parmi ces gens-là, il y en avait qui étaient de braves gens, mais qui n'étaient pas dans la lumière de l'étoile, c'est-à-dire que leur mèche ne trempait pas dans l'huile. Vous voyez, la mèche était à l'extérieur, elle était éteinte. Ces gens s'étaient séparés. En son jour, Paul a dit, ils se sont séparés de nous, n'ayant apparemment pas la foi. Vous voyez, ils s'étaient éloignés d'eux. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Eh bien, cela a commencé là-bas à Éphèse, au premier âge, et ça s'est poursuivi jusque dans cet âge-ci. C'est la même chose dans chacun de ces âges. Ce qui s'est passé dans chacun d'eux s'est prolongé dans ces âges-ci. On verra cela plus en profondeur dans un instant. Maintenant, remarquez que cette Vierge-là, elle est allée là où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Permettez-moi de dire ceci, mon cher ami bien-aimé. En fait, d'habitude, ici à l'église, quand je viens ici, j'y viens simplement pour tenir un service de guérison et prier pour les malades. Et je repars ailleurs, quelque part dans le pays. Mais c'est maintenant le moment dont je vous parle depuis longtemps, en disant de mettre votre conscience dans votre poche. Maintenant, nous voulons venir, être honnêtes et francs les uns avec les autres, parce que nous sommes au dernier jour. Oui, maintenant, c'est en cela que vous, les précieux Nazaréens et pèlerins de la sainteté, avez échoué sous la sanctification. Voyez, saviez-vous que Judas Iscariote, par sa vie, avait atteint ce stade-là? Judas avait cru au Seigneur Jésus en tant que sauveur. Il avait accepté comme sauveur. Et il avait aussi été sanctifié. Il avait été sanctifié dans Jean 17, 17, que Jésus a dit, « Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et il était la parole. Très bien. Dans Matthieu 10, ils ont reçu la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Ils sont allés dans toutes les régions du pays, ont chassé les démons et sont revenus en se réjouissant, en poussant des cris et en louant Dieu. Jésus leur a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre de vie. » Pas vrai? Et Judas était avec eux. Judas était avec eux. Et ça, c'était un an et demi avant que Jésus soit crucifié. Mais par la suite, quand est venu le moment de la Pentecôte, où Judas devait recevoir le Saint-Esprit et tout, il s'est montré sous son vrai jour. Il a renié Jésus. Et il est devenu un traître envers lui. Et c'est exactement de là que vient cet esprit. Il a continué chez Luther, Wesley, qui a amené cette église jusqu'à la sanctification par une vie vierge. Des gens purs, sans tache, saints, agréables, les meilleurs que l'on puisse rencontrer. Mais quand on en est arrivé à... Quand ils se sont mis à parler en langue et à recevoir le Saint-Esprit, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, ils ont alors dit « c'est du diable ». Et c'est à ce moment-là que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit et que vous vous êtes séparés pour toujours. Car quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Souvenez-vous, tous les disciples ont parlé en langue. Jésus-Christ est mort sur la croix en parlant en langue. Ah oui, si donc, vous ne pouvez pas traiter avec ces gens ici, être gentil avec eux ici, qu'en est-il de là-bas? Pour eux, si ce sont des démons, ceux-là l'étaient aussi. Voyez-vous donc où ça s'est montré sous son vrai jour? Voilà cette Vierge, aussi pure que les autres, une vie pure. Si je prends le cas des églises à l'ancienne mode, comme les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté, où ces gens croyaient vraiment à la sanctification, on ne peut rien trouver à redire dans leur vie, pure au possible. Ce serait une bonne chose que nous vivions tous comme ça. C'est vrai, il le faut. Bon, nous savons qu'il y en a beaucoup chez les pentecôtistes qui sont des imposteurs. C'est vrai, mais quand on voit un faux dollar, on sait qu'il était fabriqué à partir d'un dollar authentique. C'est vrai. Et il y a un véritable Saint-Esprit, un véritable Saint-Esprit qui parle en langue et qui opère des miracles et des prodiges, et ce, depuis la Pentecôte. Il faut donc que nous ayons des imposteurs. Il faut que nous ayons une méchante femme qui n'est bonne à rien pour faire ressortir l'éclat d'une vraie femme. Il faut que nous ayons la nuit, les ténèbres profondes, pour montrer que la lumière du soleil est glorieuse. C'est vrai. Il faut être malade pour apprécier la bonne santé. C'est la loi du pour et du contre. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi, tant que le temps existera. Ainsi, c'est donc là que l'Église en est arrivée. Or, Jésus n'a-t-il pas dit « au dernier jour » C'est dans Matthieu 24. « Les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. » Oui, mais celui qui a été élu dès avant la fondation de la terre a la vie éternelle. La vie éternelle, on ne peut pas s'en débarrasser. Elle est aussi éternelle que Dieu l'est. Vous ne pouvez pas plus cesser d'exister que Dieu peut cesser d'exister. C'est vrai, en effet, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Votre vie a été changée et vous êtes une partie de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Oh, je l'aime, pas vous? Maintenant, quelqu'un m'a remis une note ici, juste une petite question. Alors, ça ne nous prendra pas trop de temps pour y répondre. Et rappelez-vous, chaque fois que vous poserez la moindre question, je ferai de mon mieux pour y répondre si je le peux. Mais celle-ci est une question importante. Quelqu'un voulait savoir si c'était mal pour les femmes de témoigner ou de chanter ou de donner des messages en langue, d'interpréter des messages ou une prophétie dans l'Église. Non, ce n'est pas mal. C'est un « tant que ça se fait dans l'ordre ». Voyez, l'Église est en ordre, et c'est seulement quand la bonne et véritable façon de le faire, pour ceux qui parlent en langue et tout, c'est de donner leur message avant le message qui vient de la chair. Jamais pendant ce temps-là, parce que le Saint-Esprit n'agit qu'à un seul endroit à la fois, comme l'a dit Paul. Mais les femmes peuvent avoir des dons de prophétie, des dons de langue et d'interprétation, tous les dons, mais elles ne peuvent pas être des prédicateurs. Elles ne doivent pas prêcher. Il leur est interdit de prêcher dans les églises, c'est vrai, d'occuper cette fonction ou d'être des enseignantes ou autre chose dans l'église. Mais en ce qui concerne les dons, la femme peut avoir tout cela. Elle peut avoir un ou n'importe lequel de ces 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12. Et rien ne l'empêche de donner son message au moment convenable. Vous voyez, chaque message doit attendre son moment approprié. Si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise jusqu'à ce qu'il y ait un interprète. Voyez, ces messages sont généralement donnés juste avant la réunion. Alors le prophète ou le prédicateur, c'est-à-dire un prophète dans le Nouveau Testament, le prédicateur, quand il s'avance, Dieu commence à agir à travers lui. Voyez, puis quand il a terminé, alors les messages commencent. Un autre, là, juste avant. Ça se fait toujours en ordre, toujours. Mais une femme a ce droit. Quant à la suivante, j'aimerais juste prendre un peu de temps pour y répondre. Je vais lire le gros titre. La traduction commune de la Bible par 3 confessions différentes débute. Washington, le 15 octobre. Des érudits catholiques, protestants et juifs qui travaillent en collaboration ont commencé une nouvelle traduction conjointe des Écritures, ce qui pourrait s'avérer être la Bible canonique tant attendue. Il y a ici d'autres choses que j'aimerais examiner un peu avant d'en faire l'annonce. Autrement dit, vous voyez, c'est exactement ce dont nous parlons, exactement ce que l'Écriture a annoncé pour ces jours-ci, que par leur union, ils formeraient une image à la bête. C'est exact. Ils ont essayé de le faire et ils y travaillent. Et maintenant, ils ont la meilleure occasion qu'ils aient jamais eue de présenter cela, parce que c'est vraiment entre leurs mains. Et c'est précisément pour cette raison que j'apporte ces messages prophétiques, parce que je pense que ça tombe à point. Et s'il y en a qui peuvent revenir chaque soir, nous nous efforcerons de commencer tôt et de sortir tôt. Et si je ne termine pas le sujet, alors je l'annoncerai pour le lendemain matin, si nous ne terminons pas de poser le fondement au verset 19, du verset 9 au verset 20 ce soir. Nous commencerons cela demain matin à 10h. Nous vous informerons à la fin du service de ce qu'il en est. Puis demain soir, il sera question de l'église d'Éphèse, le point de départ. Et ainsi de suite, au cours des 7 prochains soirs, Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, dimanche prochain. Conscient des glorieux joyaux qui nous attendent, j'ai vraiment du mal à ne pas y toucher avant le temps. Rien que de les voir là et de sentir parmi les gens l'esprit qui les nourrit, ça me donne envie de sauter là-dessus rapidement et de dire quelque chose à ce sujet. Mais je dois vraiment me retenir et les placer dans leur âge et à leur époque. Donc, s'il vous arrive d'être absent le soir, assurez-vous de vous procurer la bande ou de trouver un moyen de saisir cela. Parce que je veux que ça aille partout. Et je fais ceci parce que je me sens conduit par le Saint-Esprit à le faire. C'est la seule raison pour laquelle je le fais. Et si je ne pensais pas que ça pourrait aider l'Église, en ce jour, souvenez-vous, l'heure viendra bientôt où nous ne pourrons plus tenir ces réunions. Et il faut le faire maintenant pendant que nous en avons le temps. Voyez, nous ne savons donc pas quand ils interdiront ceci. Il y aura donc un syndicat des églises, et elles s'uniront ensemble. Elles formeront la tête de la Confédération des églises, et ils ont déjà le grand bâtiment de l'ONU, dans lequel se trouvent toutes les dénominations. Et vous devrez soit appartenir à l'une de ces dénominations, soit être mis à la porte. Et c'est à ce moment-là que nous devrons montrer ce que nous sommes vraiment, être sûrs que nous connaissons, pas une supposition, mais connaissons l'ainsi dit le Seigneur, que nous savons à quoi nous en tenir. La petite église a toujours été en minorité. C'est un tout petit groupe qui, un petit fil, comme une ficelle rouge qui traverse la Bible. Mais c'est toujours l'église. Tâchons de nous en souvenir. Maintenant, juste un petit commentaire avant que nous lisions de nouveau. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Dieu nous l'a révélé ce matin comme étant la divinité suprême. Le grand « je suis », pas « j'étais » ou « je serai », « je suis », toujours. Nous remarquons dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, de qui est-ce la révélation ? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il révèle à son sujet ici ? Qu'il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu en trois, mais un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est ainsi qu'il se révèle dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Il le répète 4 fois dans le premier chapitre pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un Dieu mineur. Il n'est pas un Dieu secondaire. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi la révélation a été donnée. Et c'est cela que nous continuons d'apporter ce soir, au fur et à mesure que nous verrons les 7 éléments de sa personne, de son être. Et, oh, que Dieu nous aide alors que nous enseignons ces paroles. J'en ai étudié l'aspect historique, mais j'attends d'être ici à la chair pour avoir l'inspiration. En effet, je pense que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que votre esprit, votre portion, la langue de feu, le Saint-Esprit, qui est sur vous, va sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Il embrase le grand corps de Dieu et l'enflamme. Et c'est là que des révélations. Maintenant, ce dont nous parlons, cette question qui m'a été posée, les femmes devraient-elles, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui a déclenché le chaos dans l'Église au début. Ils avaient ôté toute la solennité de l'auditoire pour l'attribuer à la chair. Mais Dieu est le Dieu de l'auditoire. Il agit dans chaque être humain. Il vit dans chaque cœur dans lequel il peut entrer. Il trouve ces personnes qui ont des dons et il agit à travers elles. Maintenant, si le diable ne peut pas les avoir sur quelque chose, alors il vient et fait un grand conglomérat de rien du tout, ce qui éloigne les gens. Comme Paul a dit, quand vous vous assemblez, si tous parlent en langue et que survienne un homme du peuple, ne dira-t-il pas, vous êtes fou, insensé? Quelqu'un qui parle en langue, et ceci, cela, en désordre et tout, ça ne marchera pas. Mais a-t-il dit, si quelqu'un prophétise et révèle le secret du cœur, alors ils diront, Dieu est réellement au milieu de vous. Mais si quelqu'un parle en langue par révélation et en donne l'interprétation, quelque chose pour l'édification de l'Église, alors l'Église entière en sera édifiée. Si Dieu parle par l'entremise de quelqu'un dans une langue qui nous est inconnue, s'il donne cela à l'un et en donne l'interprétation à un autre, s'ils disent une certaine chose qui s'accomplit exactement telle que cela a été annoncé, alors l'Esprit du Seigneur est parmi vous. Et oh, efforçons-nous d'obtenir cela, les amis. Gardons ce feu allumé. Maintenant, juste avant d'ouvrir là, ce grand canon de l'Écriture, je me demande s'il serait trop vous demander de vous lever tout simplement pour changer de position juste quelques instants alors que nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts et nous l'a présenté après 1900 ans comme le Dieu infaillible du ciel, nous te remercions pour cela, et aussi pour sa présence parmi nous, jour après jour, dans notre marche quotidienne. Et nous sommes si heureux de savoir qu'en cette heure de confusion où le monde ne sait quoi faire, il creuse des trous dans le sol, et il se font des fortifications en béton. Mais, ô Dieu, ils ne peuvent pas se cacher devant la colère de Dieu. Il n'y a qu'un seul remède, Seigneur, et nous sommes si heureux de l'avoir accepté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oh, combien nous sommes heureux d'avoir ce soir cette protection entièrement suffisante du sang de l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur, qui est dans la gloire ce soir et qui intercède sur la base de notre confession. Nous sommes si heureux de l'avoir au milieu de nous ce soir, le grand orateur, le grand Saint-Esprit, le grand donateur de l'onction, le grand donateur de la vie. Maintenant, Seigneur Dieu, alors que j'ai convié ces gens ici sous ce toit ce soir, et que nous nous sommes assemblés ici en tant qu'Église, ou une partie de celle-ci, nous ne nous assemblons pas au nom de ce tabernacle, ou au nom d'un quelconque individu, mais au nom de Jésus-Christ. Puisse l'Esprit qui dominait sur son corps et sa pensée et qui le contrôlait venir en nous ce soir pour interpréter la parole et prêcher la parole et la donner à nos cœurs affamés alors que nous nous attendons à lui, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, vous qui avez vos Bibles, prenez Apocalypse, chapitre 1, et commençons au verset 9. Prenez vos crayons et du papier, je vais essayer de vous donner quelques dates, et ainsi de suite, au fur et à mesure que j'avancerai. Bon, en fait, ce matin, ça avait plus l'air d'une prédication, alors que je posais le fondement de la divinité, de la révélation, Dieu qui se révèle en Christ. Combien croit cela? Dieu a été révélé en Christ. Jéhovah a été révélé en Christ. Maintenant, où est-ce que Dieu doit être révélé? Dans son Église, au milieu de son peuple, en nous, le même esprit, les mêmes œuvres, la même manifestation, le même amour, le même pardon, la même longanimité, la bienveillance, la patience, la paix, la miséricorde. Tout ce qui était en Christ est dans l'Église. Rappelez-vous, gardez ceci à l'esprit. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. La triunité de Dieu. Dieu s'est manifesté de trois manières différentes. Père, Fils, Saint-Esprit. La révélation a montré qu'il n'est pas trois dieux et qu'il n'est pas non plus coupé en trois morceaux, mais il est un Dieu unique qui était Dieu au jour de la paternité, il était Dieu au jour de la filiation, il est Dieu au jour de la dispensation du Saint-Esprit. C'est le même Dieu, pas trois dieux différents, pas trois personnes, pas trois personnalités. Il est une seule personne, une seule personnalité. Vous ne pouvez pas avoir une personnalité sans être une personne. Certains disent, il n'est pas trois personnes, mais il a trois personnalités. Vous ne pouvez pas dissocier les deux, parce que s'il a une personnalité, alors il est une personne. Pour avoir une personnalité, il faut être une personne. Il est donc une seule personne, une seule personnalité, le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Oh, il est simplement tout. J'aime ça. Observez sa nature, sa vie, ses œuvres. Elle devrait se manifester ici même dans ce tabernacle, exactement comme ça l'était en son jour. Je dis sans parti pris, Dieu le sait, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Je suis content que ce soit le cas. Nous savons donc où nous en sommes, parce que nous avons ce même esprit en nous. Il agit par nous pour montrer qu'il est ici. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous ne pouvons pas faire ces choses, c'est Dieu. En outre, il s'est laissé photographier par le monde scientifique, avec nous, en nous, autour de nous, au-dessus de nous, par nous, œuvrant en nous et à l'extérieur de nous. Oh, comme c'est merveilleux! On avait l'habitude de chanter un petit chant. Je suis celui qui parla à Moïse dans le buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, l'étoile brillante du matin. Je suis la rose de Saron. Oh, d'où dis-tu que je viens? Connais-tu mon père? Ou peux-tu dire son nom? Oh, qui dis-tu que je suis? Ou d'où dis-tu que je viens? Connais-tu mon père? Ou peux-tu dire son nom? Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je suis toute la création. Et Jésus est le nom. Oh, comme c'est merveilleux, la révélation. Maintenant, rappelez-vous, vous ne pouvez pas l'obtenir par les théologiens. Ça ne vient pas de cette façon. Ça ne vient que par révélation. Le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, ne peut être donné que par révélation. Le fait que Jésus et Dieu sont une même personne ne peut venir que par révélation. Toute la Bible est bâtie sur la révélation. Toute l'Église est bâtie sur la révélation. Matthieu 17 dit, car j'ai dit, sur cette pierre, la révélation spirituelle, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons mis au défi n'importe qui de nous donner la moindre référence, dans l'histoire ou dans les Écritures, où quiconque ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, en dehors de l'Église catholique, jusqu'à l'époque de Martin Luther. Puis l'Église protestante, c'était « Et chaque mal, écoutez, alors que nous entrons dans les arts de l'Église, chaque mal qui se trouvait dans cette première Église a continué dans la suivante. Cela a continué comme ça jusqu'à ce que finalement, ça se termine par une complète apostasie au dernier jour. Chaque mal continue dans chaque Église, chaque petit isme qui a commencé, comme dans la Genèse, la vigne a commencé à pousser. Elle s'est faufilée à travers l'Église pour apparaître au dernier jour. Pas étonnant que la Bible dit « Heureux ceux qui échapperont en ce jour-là ». Oui, monsieur, qui échapperont à toutes ces choses. Maintenant, demandez à Dieu de, pendant que nous parlons de révélation, demandez-lui de vous donner une révélation de ceci, car cela ne peut être connu que par révélation, et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous est pas révélé. Personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il pourrait dire, le pasteur le dit, la Bible le dit, ce sont des vérités. L'Église le dit, c'est vrai, mais vous ne le savez pas vous-même tant que le Saint-Esprit ne vous l'a pas révélé et qu'il ne demeure pas en vous. Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. pas par la connaissance ni par l'intellect. Comment vont-ils faire pour avoir une Bible qui, essayez de la tordre, pour qu'elle se conforme aux juifs, aux catholiques et aux protestants, alors qu'ils sont aussi opposés que le jour et la nuit? Je pensais que les juifs avaient plus de bon sens. Je suppose que c'est maintenant l'heure où cela doit arriver, où tout cela doit se retrouver dans cette grande apostasie. Alors, face à toutes ces choses, souvenez-vous, nous ne pouvons pas arrêter cela, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de répandre la lumière. Peut-être nous livrer en martyr et nous en aller, car ce serait la seule façon dont on peut s'y prendre. Et beaucoup devront le faire. C'est donc ainsi que la Bible est établie, et aussi les choses dont nous traitons. Si je ne fais pas attention, je vais parler de ces choses. Maintenant, la première chose au sujet du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il énonce dès le départ qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. De qui il est? Eh bien, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous savons cela. Combien croient cela? Dites Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant et il a un seul nom. Ce nom est le seul nom donné sous le ciel par lequel vous devez être sauvés. Jésus-Christ. Pourquoi en ont-ils peur au baptistère? C'est ce qui m'étonne. Ah oui, voyez, c'est parce que cet esprit s'est infiltré là, dans l'âge de Smyrne. Il s'est faufilé jusque dans ce grand âge des ténèbres. Ils en ont fait une doctrine et ils ont continué d'avancer avec cela jusqu'en ce dernier jour. Maintenant, alors que nous étudierons ceci au courant de cette semaine, considérez l'histoire et la Bible et voyez comment elles font ressortir ces choses. Bon, la chose suivante, c'est que cela a été donné à Jean par Christ au moyen d'un ange pour qu'il le transmette à ses... quoi ? Église, pour qu'il révèle cela à ses églises. Et les sept étoiles qui étaient dans sa main, c'étaient les sept messagers des sept églises. Et tout homme qui aura un message aura cela, le même vrai message qui a commencé au début. Et plus encore, quand nous aborderons ces autres aspects, où nous verrons comment Dieu a agencé ces choses, c'est merveilleux. Cela vous fera simplement pousser des cris. Je lisais cela, et je marchais un peu, et je pleurais. Je revenais m'asseoir, puis je marchais encore un peu. J'étais vraiment heureux de savoir ceci. Comment Dieu a-t-il pu être si miséricordieux envers nous, pour nous permettre de voir cette chose dans l'heure où nous vivons? Eh bien, c'est comme Jésus a dit, un homme a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un certain diamant. Pour vous séparer totalement du monde, des choses du monde, et de tout ce qui concerne quoi que ce soit d'autre, pour avoir ça, c'est vrai, vous attachez entièrement votre ancre à cela. C'est ça, l'ancre de l'âme, voir la révélation de sa parole. Maintenant, quiconque lit cela est béni, pas vrai? Et ce matin, nous avons dit, au cas où vous ne savez pas lire, que quiconque en entend la lecture est béni. Maintenant, ça commence avec une bénédiction, même pour ceux qui vont s'asseoir et en entendre la lecture. Et il y a une malédiction pour quiconque essayera d'y ajouter quoi que ce soit ou d'en retrancher quoi que ce soit. Et si la Bible révèle clairement que Jésus était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui retranchera cela. Oui, c'est une révélation. Quiconque ajoutera quoi que ce soit, c'est le canon complet de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de Dieu, ses dernières paroles, ses dires. Et toute révélation qui est contraire est une fausse prophétie. Ce n'est pas de Dieu, parce que ceci, c'est la vérité. Et souvenez-vous, c'est le seul livre de la Bible approuvé par Christ lui-même. Pensez-y, le seul livre, c'est la révélation de lui-même, le seul livre sous lequel il a apposé son sceau et dans lequel il a mis ses bénédictions et ses malédictions. Des bénédictions pour ceux qui recevront cela, la malédiction pour ceux qui ne recevront pas cela. Maintenant, nous en sommes à l'île de Patmos. C'est là où nous commençons au verset 9. Tout d'abord, nous voulons dire que c'est... Nous intitulerons ceci « La vision de Patmos ». Ça s'est passé en l'an entre 95 et 96 après Jésus-Christ. Le lieu, c'était l'île de Patmos. Elle est située à 50 km au large, à l'ouest de la côte de l'Asie mineure, en face de l'église d'Éphèse, dans la mer Égée, bordée par la Méditerranée. C'est là où elle se trouve. Pensez-y, c'est donc une petite île située à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de l'Asie mineure, dans la mer Égée, juste en face de l'église de Philadelphie ou de l'église d'Éphèse, à laquelle s'adresse le premier message, et dont Jean était le pasteur à ce moment-là. Autrement dit, d'où il se trouvait, s'il regardait vers l'est, il regardait directement vers son église. Et le premier message était adressé à son église, qui représentait un âge de l'église. Très bien, la vision avait été donnée à l'apôtre Jean, qui était alors le pasteur de l'église d'Éphèse. Dans quel état était donc cette île? Où était-elle? Et dans quel état? Très bien, elle est connue dans l'histoire comme une île rocheuse, pleine de serpents, de scorpions, de lézards et tout. Elle a une circonférence d'une cinquantaine de kilomètres, et elle est pleine de roches. À l'époque de Jean, elle jouait le même rôle qu'Alcatraz. C'est dans ce lieu que l'empereur de l'Empire romain exilait des criminels, les plus grands criminels, qu'on ne pouvait pas garder en prison et tout. On les envoyait sur cette île-là pour y mourir. On les y laissait jusqu'à leur mort. Question, pour quelle raison Jean se trouvait-il là-bas? Lui, un homme pieux, un homme juste, un homme de bonne réputation, de bon caractère, sans histoire. Pourquoi cet homme se trouvait-il là-bas? La Bible dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Bon, nous avons le contexte, l'île de Patmos, de la mer Égée, à une cinquantaine de kilomètres au large de la côte, et dont la circonférence était d'une cinquantaine de kilomètres, était rocheuse, pleine de lézards, de scorpions et tout, et elle servait de prison. Tout comme Alcatraz. Quand il y a un prisonnier qu'on ne peut pas garder en prison ici, donc un si dangereux criminel, on l'envoie à Alcatraz. Et là, on avait pris ce saint, l'apôtre Jean, le dernier des disciples, le seul qui est mort de mort naturelle. Jean, avant sa déportation sur cette île, avait été accusé de sorcellerie et on l'avait fait bouillir dans une cuve de graisse pendant 24 heures sans qu'il subisse de brûlure. Vous n'arriverez pas à faire sortir le Saint-Esprit d'une personne en la faisant bouillir. On l'avait fait bouillir pendant 24 heures dans une cuve de graisse sans que cela lui fasse le moindre mal. On prétendait que l'explication donnée par les Romains à ce sujet, c'est qu'il était un sorcier et qu'il avait ensorcelé la Grèce. Voilà ce que la pensée charnelle peut concevoir. Maintenant, vous voyez, quand on nous traite de liseurs dans la pensée des gens, de diseurs de bonne aventure et de Belzébul, voyez-vous d'où vient ce vieil esprit? Mais vous voyez d'où vient le véritable esprit? Ce sont les âges de l'Église. Voyez? 24 heures à cuire dans de la graisse chaude et bouillante, sans que cela lui fasse le moindre mal. Oh, combien Dieu l'avait mise à l'abri en lui-même, par son Saint-Esprit. Son travail n'était pas terminé. On l'a laissé dans cette île pendant 2 ans. Comme Dieu l'avait fait isoler là-bas, il a écrit le livre de l'Apocalypse, tel que l'ange du Seigneur le lui avait révélé. Et puis, aussitôt qu'il a fini cela, il est revenu dans le pays et était le pasteur de l'église d'Éphèse. Puis il est mort et a été enterré à Éphèse, l'apôtre Jean. Oh, quel tableau là! Très bien, l'église était alors sous Jean, ou plutôt subissait de grandes persécutions. Jean écrit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, à la tribula, et qui est part avec vous aux tribulations, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Autrement dit, il prenait la parole de Dieu et démontrait cela, que c'était la parole de Dieu, et par lui, Christ venait par la suite attester qu'il avait raison. Vous y êtes. La parole de Dieu se manifestait en lui, et cela prouvait qu'il était le serviteur de Dieu. Il ne pouvait donc pas nier cela. Alors il leur fallait lui dire qu'il était un sorcier. Il a ensorcelé la Grèce pour qu'elle ne lui fasse pas de mal. Et il a ensorcelé les gens, mais il n'était pas guéri. Et il était un diseur de bonne aventure qui ne pouvait pas. Un genre de personne méchante, un mauvais esprit. Un esprit méchant. Et c'est pour cette raison qu'il l'avait déporté là-bas. Il trouvait que c'était dangereux qu'il vive dans la société. Mais il ne faisait qu'exécuter la volonté de Dieu. Et dans toute cette situation, Dieu avait un but. au vu de toutes les persécutions et des autres choses, ils ne pouvaient pas se servir de lui parce que les saints venaient. Oh, frère Jean, qu'allons-nous faire de ceci? Qu'allons-nous faire? Jean était un prophète, ça nous le savons. Ainsi donc, puisqu'il posait toutes ces questions, Dieu a donc fait en sorte que l'Empire romain le prenne et l'envoie là-bas, dans cette île. Il a dit, « Bon, viens Jean, je veux te montrer quelque chose qui va arriver. » C'était le dernier des apôtres. Il ne restait plus que Jean pour écrire cela. Donc, ils l'ont envoyé dans l'île de Patmos et l'ont laissé là-bas de 95 à 96 après Jésus-Christ. Puis il a écrit cela et a dit, « Moi, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation. » Là, il ne parlait pas de la grande tribulation. Ce n'était pas la grande tribulation. L'Église n'ira pas dans cela. Les Juifs iront dans la grande tribulation, pas l'Église. Donc, ce n'était pas la tribulation, la grande tribulation. Maintenant, le verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi la voix, le son d'une trompette. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Eh bien, vous ne pouvez rien faire de bon, à moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Dieu ne peut pas vous utiliser. Vous êtes. Tous vos efforts sont vains, à moins de le faire premièrement par l'esprit. Si je chante, je chanterai par l'esprit. Si je prie, a dit Paul, je prierai par l'esprit. Et s'il y a quoi que ce soit de bon qui doit m'arriver, cela doit m'être révélé par l'esprit et confirmé par la parole, manifesté par les résultats que cela produira. Maintenant, en d'autres mots, si je dis par exemple, Jésus-Christ a promis dans sa parole que si je me repens et que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, je recevrai le don du Saint-Esprit. La première chose que je dois faire, c'est de me repentir. Il m'a été révélé que c'est la vérité. Ensuite, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Et le résultat, je recevrai le Saint-Esprit. Si je suis malade, il m'a promis que si je crois et que je demande aux anciens de l'Église de moindre d'huile et de prier pour moi, la prière de la foi sauvera le malade. Seigneur, je crois. Je suis tes instructions. Qu'un ancien prie pour moi et moigne d'huile. C'est réglé. Je continue d'avancer. C'est terminé. Oh, dites-vous, je ne sens toujours pas de changement. Jésus n'était pas né quand Dieu l'a immolé avant la fondation du monde. Quand il était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée de Dieu, il l'était déjà. Moi non plus, je n'étais pas ici à ce moment-là, et vous non plus. Mais dans le livre de Dieu, si nos noms y ont jamais été, c'est qu'ils y ont été mis avant la fondation du monde. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver. Alors, quand vous répondez aux exigences de Dieu, souvenez-vous simplement que Dieu se manifestera et s'occupera du reste. Continuez simplement d'avancer. C'est une œuvre achevée. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là, pensez-y. Dites simplement à Dieu, et Dieu a dit, « Fais ceci, et moi, je ferai ceci. » Eh bien, si je fais ceci, il doit faire cela. Or, le diable dit, « Tu vois, il tarde. » Cela ne change rien. Daniel a prié une fois, et il a fallu à l'ange 21 jours pour se rendre jusqu'à lui. Mais il ne s'était pas découragé. Il savait qu'il viendrait de toute façon. Il a donc simplement attendu jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ce qu'il faut faire. Oh, c'est là que vous obtenez la foi. Bon, il nous faut laisser ceci de côté, sinon nous aurons un service de guérison très rapidement, n'est-ce pas? C'est vrai, oui, par la foi. Mais nous voulons un service de guérison de l'âme, pour guérir l'intérieur, parce que c'est ce qui va demeurer. Vous obtenez la vie éternelle. La vie éternelle ne disparaît pas, elle ne vieillit pas, elle demeure, elle reste la même. Donc, il est entré dans l'esprit avant que quoi que ce soit arrive. La première chose qu'il a faite, il était dans l'île appelée Patmos. Toutes ces choses qu'il avait faites. Et il a dit, j'ai entendu une voix et toutes ces autres choses. Mais avant que quoi que ce soit arrive, il était dans l'esprit. Et si vous remarquez dans votre Bible, le mot esprit commence avec une majuscule. Le Saint-Esprit. Amen. Il est entré dans l'esprit. Oh, je trouve ça vraiment merveilleux. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En quel jour? Au jour du Seigneur. Bon, voilà l'objet d'une grande controverse. Réglons cela juste un instant. Maintenant, comme nous l'avons dit ce matin, certains disent que la révélation dont il est question dans Matthieu 17, c'était Pierre. L'Église catholique dit, il a bâti son Église sur Pierre. C'était lui, le premier pape. Comment aurait-il pu être pape étant marié? Voyez, Et ils disent, Pierre est allé à Rome, et c'est là qu'il a été enterré. Dans ce cas, trouvez-moi une seule preuve, dans l'histoire ou ailleurs, qui montre que Pierre soit allé à Rome. Voyez, c'est Paul qui est allé, mais pas Pierre. Très bien. Nous voyons donc que tous ces ismes et autres se sont simplement infiltrés. Voyez, toutefois, les gens aujourd'hui sont partout où vous allez. Une certaine grande église détient un certain clou qui était dans sa main. Vous savez combien de clous ils ont aujourd'hui? Des clous authentiques qui étaient dans 19. Ils ont des os, ils ont des morceaux de tunique qu'ils touchent et manipulent. Et nous n'avons pas ces choses. Nous n'en avons pas besoin. Christ est vivant. Il est en nous. Pas un clou, ou un morceau de la croix, ou un morceau d'os, ou quelque chose d'autre. Il est le Dieu vivant qui vit en nous et se manifeste maintenant. Nous n'avons qu'une chose qui sert d'acte commémoratif. C'est le souper du Seigneur, en mémoire de sa mort. Mais pour ce qui est de Christ lui-même, il est avec nous et en nous. Et c'est ça que nous voulons agiter à la face du monde, la gloire du Saint-Esprit. L'agiter jusqu'à ce que la lumière soit répandue. Très bien. Maintenant, donc, vous voyez, nous avons pris l'autre côté de la route. Vous savez que j'ai toujours essayé d'être ainsi. Et notre Seigneur me l'a toujours révélé. Il y a un extrême et un autre extrême. Mais la vérité se trouve juste au milieu de la route. Avez-vous remarqué dans Ésaïe, là où il dit qu'il y aura une grande route? Ésaïe 35. Et vous vous souvenez que nos précieux frères nazaréens chantaient ce chant. Vous savez, la grande route de la sainteté, la grande route de la sainteté. Or, si vous lisez bien votre Bible, elle ne dit pas la grande route de la sainteté. Elle dit, il y aura une grande route et un chemin. Et il sera appelé, non pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Et c'est une conjonction qui relie les deux bouts de la phrase. Voyez, il y aura une grande route et un chemin. Et il sera appelé le chemin de la sainteté, et non la grande route de la sainteté. Voyez, on construit une route, un chemin. Sur une route bien construite, la partie la plus surélevée, c'est le milieu, parce que ça permet à l'eau d'entraîner la saleté sur les deux côtés. C'est ça. Quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ. S'il est un peu émotif, il sera un fanatique. S'il est un peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et ne sera qu'un concombre de ce côté-là. Voyez, son intellect. Mais la chose principale se trouve au beau milieu de la route. Vous avez l'esprit en vous, juste ce qu'il faut pour vous garder au chaud et en mouvement. Amen. Et vous en savez suffisamment pour continuer à obéir à l'esprit et avancer au même rythme que l'esprit. Pas avant ou après, au même rythme que l'esprit. L'Église catholique dit, cette révélation, c'était Pierre. L'Église protestante dit, c'était Christ. Mais la Bible enseigne, c'était la révélation qu'il avait donnée, que Dieu lui avait donnée, au sujet du Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ni un homme, ni un séminaire, ni un monastère, ni rien qui te l'a enseigné. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, nous arrivons à un autre passage ici où il y a deux opinions différentes. Là, il se peut que je me trompe. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais je vais être en désaccord avec les adventistes du septième jour qui disent « Ce jour du Seigneur dans lequel il était, c'était le septième jour ». Les frères adventistes du septième jour et beaucoup d'autres prétendent que c'est le jour du sabbat qu'il a appelé le jour du Seigneur. Pour l'Église chrétienne, ce jour, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le premier jour. Et nous remarquons bien des fois que, aujourd'hui encore, l'Église chrétienne, les protestants, ils appellent ça le jour du Seigneur, le dimanche. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, dimanche était le premier jour de la semaine, pas le jour du Seigneur. Et le septième jour, le sabbat, ne l'était pas non plus. Il serait impossible que ce soit l'un ou l'autre de ces deux jours, parce qu'il a fallu 2 ans à Jean pour écrire l'Apocalypse. Quel jour était-ce? Il y aurait beaucoup de ces septièmes jours et de ces premiers jours durant cette période-là. La Bible, l'Apocalypse, a été écrite de 95 à 96 après Jésus-Christ, soit 2 ans. C'était le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est exactement comme c'est dit. Et c'est ce que c'était. Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur viendra. Tout au long des Écritures, nous verrons qu'il était au jour du Seigneur. qu'il avait été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur. Amen. C'est vrai, voyez, il était au jour du Seigneur. La Bible parle du jour du Seigneur. Nous y arriverons dans un instant, aux nombreux passages de l'Écriture qui s'y rapportent. Pour commencer, le jour du sabbat, puisque nous en parlons, le jour du sabbat, ce n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons pas l'ordre d'observer le sabbat le samedi. Nous n'avons pas l'ordre d'observer le sabbat le premier jour dans le Nouveau Testament. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 4, si Jésus leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est vrai, mais il y a un repos ou une observance de sabbat réservée au peuple de Dieu. Car nous qui avons cru, nous sommes aussi entrés dans le repos de Dieu. Nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Regardez, oh, loué soit le Seigneur! Je commence à me sentir très bien. Je me sens transporté. Remarquez, le jour du sabbat, Dieu a fait la terre en 6 jours, et le 7e jour, il est entré dans le repos, et il n'est plus jamais revenu pour créer d'autres mondes. Puis, il a donné cela au peuple, à titre commémoratif. En effet, l'observance du sabbat est impossible maintenant, parce que quand certains l'observent ici, c'est déjà dimanche à l'autre bout du monde. Voyez, ça montre donc que ça s'adressait à un peuple dans un espace et un temps donné pour Israël. Mais il y a une observance de sabbat réservée au peuple de Dieu. Pour nous qui crûmes d'entrer dans son repos, quoique ses œuvres, je cite Hébreux chapitre 4, quoique ses œuvres avaient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, pour vous qui prenez des notes, c'est Hébreux 4, Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comment longtemps, quand vous entendez, ou il est dit plus haut, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Josué leur avait donné un repos, un jour, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Mais il y a un repos, ou l'observance d'un sabbat. Le mot « repos », sabbat, est un mot qui nous est inconnu. Il signifie « repos ». C'est un mot hébreu qui signifie un jour de repos, un jour de sabbat. On ne travaille pas, on se repose. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas d'un autre jour. Mais il y a un repos ou l'observance de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car nous qui sommes entrés dans le repos de Dieu, nous reposons de nos œuvres, tout comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous n'y retournons plus le jour suivant de la semaine pour reprendre cela. Nous sommes entrés dans un repos. Jésus, quand il parlait dans les Béatitudes, a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans raison, l'a déjà tué. » Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point d'adultère. » C'est le commandement. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pas vrai? Donc, toutes ces choses étaient des commémorations. C'était juste des signes, des prodiges, en attendant la venue du véritable moment. Maintenant, quand Jésus a fini cela, dans Matthieu 11, les Béatitudes, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. » Pas vrai? Venez à moi, vous tous qui, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Si vous avez travaillé un jour, 10 jours, 5 ans, 35 ans, 50 ans, 90 ans, et que vous êtes fatigué et là, venez à moi, je vous donnerai du repos. J'ôterai de vous tout ce poids du péché, et j'entrerai en vous pour vous donner un parfait repos et une parfaite satisfaction. Maintenant, ce repos, qu'est-ce que c'est? Parlons-en juste un peu pour voir ce que c'est. Certains disent, eh bien, allez adhérer à l'Église. Non. Mettez votre nom dans un registre. Non. Eh bien, c'est une sorte de baptême d'eau. Non. Parlons-en pour voir ce qu'il en est. Aimeriez-vous le faire tout de suite, pendant que nous attendons? Nous allons voir où Jean est allé. Dans quel genre de jour est-il allé? Quand Jésus est mort sur la terre et que son œuvre était terminée, il est entré quelque part. Maintenant, retournons dans Ésaïe, chapitre 28, verset 8. Je crois que c'est bien ça. Ésaïe 28, 8. Lisons Ésaïe 28. Le prophète avait parlé 712 ans avant que cela se produise. Maintenant, combien aimerait savoir ce qu'est le vrai sabbat, ce qu'est le vrai repos? Voici ce que c'est. Eh bien, Voici où le prophète en a parlé, et je vais vous montrer où ça s'est accompli. Observez, Ésaïe 28, 8. Le prophète qui prophétise au sujet de ces jours-ci, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Les gens qui prennent la communion, pourtant ils fument, boivent, mentent et volent. Il n'y a plus de place propre. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui pourriez-vous enseigner la sagesse aujourd'hui? Combien ont entendu Billy Graham aujourd'hui? Il a prêché un merveilleux sermon sur le fait que les gens peuvent croire un mensonge, continuer tout bonnement dans ce mensonge et même se justifier et penser qu'ils font ce qui est juste. Le public américain accepte, a-t-il dit, ce slogan, le filtre d'un homme sage, la cigarette du fumeur, acceptant ainsi l'un des mensonges du diable qui fait de lui un insensé ou quoi qu'il puisse être, en fumant une chose pareille et en essayant de faire de lui un homme sage. C'est un insensé du fait même qu'il fume, puisque c'est rempli de la mort, de cancer et tout, et l'on voit quand même cela dans ses poumons en l'inhalant. C'est un insensé, pas le, le filtre d'un homme sage, ça ne tient pas debout, un homme sage ne touche pas à ça. Sans Heurtel 92, point de vie, ou quelque chose comme ça, en dehors de Christ, point de vie, c'est ça la vraie, la véritable vie. Qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes consomment ce genre de choses? C'est qu'ils cherchent à étancher cette soif intérieure que Dieu a mise en eux pour qu'ils aient soif de lui. Et ils essayent de l'étancher avec les choses du monde. C'est pour ça qu'on a ces choses. C'est pour ça que les gens agissent comme ça, parce qu'ils essayent d'étancher cette soif de Dieu qui est en eux. Et le diable leur donne la mort au lieu de la vie. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Les membres du clergé et tous les autres le disent. Il n'y a pas de mal à avoir un peu de plaisir licite. Ça n'existe pas, ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Maintenant, nous ne sommes plus des bébés. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le... quoi? L'observance du sabbat? Le repos. Laissez celui qui est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Reposez celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Quand cela s'est-il accompli? 712 ans plus tard, quant au jour de la Pentecôte, des lèvres balbutiantes se sont posées sur les gens. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues et que le Saint-Esprit s'est emparé de leur vie et qu'ils se sont reposés des choses du monde. Ils sont alors entrés dans un repos avec Christ. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, « Nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de toutes nos œuvres mondaines, comme Dieu s'est reposé des siennes au jour de la création. » Il est entré dans son repos et nous entrons avec lui après que nos œuvres mondaines sont terminées. Voilà votre vrai et authentique sabbat. Donc Paul a été ravi. Il est entré dans cet esprit de sabbat et il a été transporté par le Saint-Esprit jusqu'au jour du Seigneur. Pourquoi avons-nous des guerres? Pourquoi avons-nous des ennuis? Pourquoi une nation est-elle contre une autre? Jésus, le prince de la vie, est venu et ils l'ont tué. Dans quelques semaines, ou en ce moment même, des reines, des Pères Noël, des clochettes et toutes sortes de choses sont en train d'être installées. C'est une cérémonie païenne. C'est un élément de l'Église catholique. Les gens dépensent beaucoup d'argent, échangent des cadeaux et font des choses de ce genre. C'est du paganisme. Noël est un jour d'adoration. En passant, Christ n'est pas non plus né le 25 décembre. Il ne pouvait pas l'être. Si vous avez déjà été en Judée, les collines y sont complètement enneigées. C'est pire qu'ici. Il est né en avril, quand toute la nature renaît. Mais là, c'est leur tradition. Et pourquoi faisons-nous ces choses? Parce que nous suivons les traditions des hommes au lieu des commandements de Dieu. C'est quelque chose comme ça n'a pas d'importance. Mais ils en ont fait une journée commerciale. C'est indigne et honteux qu'ils fassent de telles choses. Une cérémonie païenne. Depuis quand le Père Noël a-t-il quelque chose à voir avec Jésus? Depuis quand le lapin de Pâques, ou un poulet, ou coloré, avec une sorte d'encre, ou quelque chose comme ça, ou une espèce de petit lapin blanc, a-t-il quelque chose à voir avec la résurrection de Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas comment le monde commercial? C'est pour ça qu'ils vendent ces vieux bouquins de rock'n'roll, ces photos obscènes, vulgaires, et des choses de ce genre. Parce que les gens ont en eux une nature qui soupire après de telles absurdités. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur cœur. Ils ne sont jamais entrés dans ce repos avec Dieu pour se reposer de ces choses-là. Quand ils entrent là et reçoivent le Saint-Esprit, alors pour eux, c'en est fini du monde et des choses du monde. Dieu l'avait transporté. Oh, je ne crois pas qu'il y ait été ravi comme Paul, là, jusqu'au troisième ciel pour voir des choses. Très bien. Le précieux Saint-Esprit l'a fait ici, il y a quelques semaines. Il m'a permis de voir, à vrai dire, j'avais peur de la mort. Et le Saint-Esprit m'a ravi et m'a montré ce qu'il en était. Vous en avez entendu le témoignage. Alors, depuis que je suis revenu, mort, où est donc ton aiguillon? J'ai été transporté pour voir ce qu'il y a au-delà du rideau. Il m'a permis de revenir pour vous dire que là, de l'autre côté, nous ne sommes pas des fantômes et des esprits. Nous sommes des hommes et des femmes. Jeune, immortel, jamais malade, juste là, au-delà du voile. La mort ne peut rien faire d'autre que de vous amener dans ce lieu-là. Eh bien, j'ai été transporté de l'île de Patmos, dans l'esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour des hommes. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Ce sera alors le grand millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, de son jugement, ce sera le jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour des hommes. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font tout ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps. Ils vous traitent maintenant d'exaltés, de fanatiques. Mais il viendra un temps, voyez, où ils ne le feront pas. Ils hurleront, se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit, dans Malachie 4, que vous marcherez même sur leurs cendres après qu'ils auront été embrasés. Il ne leur sera laissé ni racine ni rameau. C'est exactement ce que la Bible dit. Les justes marcheront sur les cendres des méchants. C'est tout à fait vrai. Il ne leur sera laissé ni racine ni rameau. Rien qui puisse leur permettre de revenir. Ils seront anéantis. Maintenant, ceci, c'est le jour de l'homme. Les actions de l'homme, les œuvres de l'homme, l'église de l'homme, les idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. Bon, il était ravi en esprit au jour du Seigneur. Très bien. La première chose qu'il a entendue, après avoir été ravi en esprit au jour du Seigneur, là, nous sommes au verset 10. Ravi en esprit au jour du Seigneur. Et il entendit une voix comme une trompette. Ne laissons passer aucune parabole, là. S'il nous faut continuer cela demain, on pourra le faire, voyez. Que quelqu'un surveille l'horloge pour que je ne termine pas trop tard. Très bien, maintenant, a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Bon, souvenez-vous, la première chose que vous devez faire, c'est quoi? Entrer dans l'esprit. Comment ces révélations viendront-elles à vous? Entrez dans l'esprit. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Entrez dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Quand vous étiez pécheur et que vous alliez à une soirée de danse, vous entriez dans cet esprit-là. Oh là là, vous vous mettiez à taper des mains, à taper des pieds, à faire la fiesta. Vous jetiez votre chapeau par terre, vous tourniez et vous faisiez l'idiot. Vous étiez dans l'esprit de la chose. Pouvez-vous imaginer quelqu'un, un mordu de la danse, aller à une soirée dansante et dire « Eh bien, je pense que vous passez tous de merveilleux moments. » Oh, on lui dirait « Si tu veux faire tapisserie, sors d'ici !» Voyez, si vous allez voir un match de baseball et que quelqu'un frappe un coup de circuit ou quelque chose comme ça, et vous restez assis juste à regarder et à dire « Eh bien, je pense que c'est assez bon !» Non, vous ne seriez pas un mordu de baseball. Vous ne seriez pas un vrai. Vous ne seriez pas dans l'esprit du baseball. Quand quelqu'un frappe un coup de circuit, vous vous levez et criez « Youpi ! Oh là là ! Victoire !» Vous accrochez le chapeau de quelqu'un comme ça et personne ne s'en offusque. Puis, à l'église, quand vous entrez dans l'esprit, vous vous levez et criez « Gloire ! Alléluia ! Loué soit le Seigneur !» Quelqu'un se retourne et dit « Exalté ! Oh, frère Wood, je vais vous poser une question. Si nous sommes des exaltés parce que nous faisons ça, alors eux, là-bas, ce sont des exaltés impies. Je préfère être un exalté, pas vous, plutôt qu'un exalté impie. Oh là là, certainement, les exaltés impies. Maintenant, Il avait été ravi en esprit. Il était entré dans l'esprit. Alors les choses ont commencé à se produire. Une fois arrivé là, il a entendu une trompette. Or, une trompette annonce toujours l'approche de quelque chose. Comme quand vous venez, quand un roi approche, on sonne de la trompette. Quand Jésus approche, il sonne de la trompette. Pas vrai? Quand Joseph sortait, on sonnait de la trompette. Et là, quelque chose approche. Jean est entré dans l'esprit et il a entendu une trompette. Il a entendu une trompette et s'est retourné pour voir ce qu'il y avait derrière lui quand il a entendu la trompette. Après qu'il était ravi en esprit, peut-être qu'il dansait, sautait, courait dans tous les sens sur l'île. Il passait un merveilleux moment. Il était dans l'esprit. Alors, et il, ça pourrait avoir l'air sacrilège, mais je ne le dis pas dans cette intention. Voyez, il aurait bien pu. Il est possible qu'il ait fait cela. Je crois que c'est ce qu'il faisait, qu'il passait un merveilleux moment en esprit et qu'il louait simplement Dieu, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand l'Esprit est descendu sur eux la première fois. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils titubaient comme des hommes et des femmes ivres. Ils agissaient comme s'ils étaient ivres et ils baragouinaient. Et appel se comportait de la sorte au point que les gens disaient « Ces gens sont pleins de vin doux !» C'est ainsi qu'ils s'étaient comportés la première fois. Alors, quand l'Esprit est revenu, Jean s'est probablement comporté de la même façon. Voyez, il n'y a rien de nouveau à ce sujet. C'est la religion à l'ancienne mode. Oui, ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est ce que nous entendons là. Alors, qu'en est-il? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ravi en esprit, là, il était transporté de cette île jusqu'au jour du Seigneur. Et dès qu'il est arrivé au jour du Seigneur, il a entendu une trompette. Qu'est-ce? Quelqu'un approche. Un personnage important approche. La trompette sonne. Quelqu'un vient. Il a regardé. Alléluia. Une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Ce n'est pas l'annonce d'une deuxième personne ou d'une troisième personne, mais de la seule personne. « Je suis et l'alpha et l'oméga. » Avant de te montrer quoi que ce soit, je veux te dire qui je suis. La plus grande de toutes les révélations est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas franchir la première étape avant d'avoir cru cela, de vous avancer là. C'est ce que Pierre a dit. Repentez-vous et ensuite voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous serez alors prêts à entrer dans l'Esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis de A à Z. Il n'y a que moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Réfléchissez à cela. C'est ce que la trompette a dit. Attention, Jean, tu es entré dans l'esprit. Quelque chose va être révélé. Quoi donc? Une trompette sonne. La première chose, je suis l'alpha et l'oméga, la première de toutes les révélations. Ô pécheur, incline-toi, repends-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première chose qui lui a fait connaître. Qui il est? Qui est celui qui s'approche? Est-ce le roi Jésus? Le roi Dieu? Le roi Saint-Esprit? Il a dit, je suis tout cela. Je suis de A à Z. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est immortel, l'éternel. Un peu plus loin, nous le voyons en regardant les sept éléments de sa personne. Nous voyons ce qu'il est là. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais là avant qu'il y ait un premier, et après qu'il n'y aura plus de dernier, je serai toujours là, en d'autres termes. Le premier est le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à la Odyssée. Très bien. Alors, la première de toutes les révélations est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez absolument savoir qui il est quand vous entendez la voix. Très bien. Cette même voix qui a retenti sur le mont Sinaï, cette même voix qui a retenti sur la montagne de la Transfiguration, la même personne. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Maintenant, regardez bien le verset suivant. Très bien. Je me retournais. Là, c'est le chapitre 12. Nous allons laisser ces églises de côté pendant un instant, parce que toute la semaine prochaine sera consacrée à ces églises. Voyez, alors, on va juste laisser ça de côté. Mais il a dit, c'est... Je vais te dire à qui tu vas envoyer ce message que je te montre. Qui est-ce? Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui est suprême. Je suis celui qui est tout puissant. Et je suis venu pour te dire que je te donne un message pour cette église. Je veux que tu l'écrives, que tu le prépares. Voyez, les sept églises qui sont en Asie. Maintenant, à cette époque-là, il s'y trouvait des églises dont la nature reflétait ces âges de l'église à venir. Bon, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Sept chandeliers d'or. Bon, ça, c'est la version du roi Jacques. Vous avez probablement une Scofield ou peut-être une Thompson Chain ou une autre. Là, ce n'est pas bien traduit. Ça ne dit pas chandelier, ça dit porte-lumière, des porte-lampes. Je crois que c'est ça le mot approprié, le mot exact utilisé dans la traduction originale. Vous voyez, en d'autres termes, ces sept chandeliers d'or étaient sept églises. Il dit un peu plus loin, ici au verset 20, les sept chandeliers que tu as vus sont sept églises. Donc, vous voyez, si c'était une chandelle, elle se consumerait bien vite et s'éteindrait en très peu de temps. Mais ce ne sont pas des chandelles, c'est un porte-lampe. C'est présenté comme un porte-lampe. Et après m'être retourné, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme au milieu des sept porte-lampes. Maintenant, regardez, la chandelle se consumerait très rapidement. Elle s'éteindrait et ce serait terminé. Elle se consumerait complètement en quelques heures. Mais un porte-lampe, c'est comme ceci. Là, prenons un passage de l'Écriture ici. Prenons Zacharie 4:1. C'est là, dans Zacharie, que nous aurons peut-être ce que nous voulons. Zacharie 4:1. Je crois qu'à ce moment-là, nous pourrons peut-être en tirer ce que nous voulons. Je ne peux pas trouver Zacharie dans Sophonie, n'est-ce pas? Très bien. Ma vieille Bible est presque complètement usée. Zacharie 4:1. Écoutez attentivement maintenant. On a une très belle image ici. L'ange, ça, c'est le prophète, là, 519 ans avant Christ. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille du sommeil. Là, c'est le prophète dans une vision. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier. » Là, c'est le même mot traduit par « porte-lampe ». Tout d'or surmonté, un vase. C'était la lampe, et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Voyez, les mêmes âges de l'église qui se profilent. Voyez, et il y a près de lui deux oliviers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait brûler dans ces lampes du temps de la Bible? Est-ce que quelqu'un le sait? De l'huile. Quelle sorte d'huile? De l'huile d'olive. Deux oliviers. Qu'est-ce que c'est? Le Nouveau et l'Ancien Testament. Ce sont ces deux qui se tiennent près de lui. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il rétablira Jérusalem. » Maintenant, le chandelier, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-lampe. Et remarquez comme c'est beau. Ici, quand il s'est retourné, il a vu cette personne qui ressemblait au Fils de l'homme, là, au milieu des sept porte-lampes d'or, ce qui signifie les sept âges de l'Église à venir. Et chaque conduit ou porte-lampe reposait sur le grand encensoir d'huile principale, et cette huile montait pour alimenter une petite lampe de forme étrange qui contenait une mèche. Et c'est cette mèche qui trempait dans l'huile. Et tant qu'on versait de l'huile par le dessus du porte-lampe, ce qui remplissait la grande tige principale, la grande branche, et ça passait dans les tiges, comme ceci. Et la lampe dont la mèche pendait se conduit dans le brûlait continuellement, jour et nuit. On n'avait pas à l'allumer, elle ne s'éteignait jamais. On ajoutait continuellement de l'huile dans le conduit principal, tout simplement. Et ces porte-lampes qui sortaient comme ceci étaient surmontées de lampes. La mèche de la lampe descendait jusque-là, et c'est de là qu'elle tirait sa vie. Oh, comme c'est différent d'une chandelle! Comme c'est différent! C'est un porte-lampe, et ça tire de l'huile. Bon, ces porte-lampes, le feu qui brûlait au-dessus de ces porte-lampes dans l'Ancien Testament, quand on allumait une lampe, on ne pouvait pas allumer la lampe suivante avec le même feu qu'on avait à la main. On allumait une lampe, puis on s'en servait pour allumer la lampe suivante, et on la déposait. On allumait cette lampe, puis on la prenait pour allumer cette lampe-ci, en se servant du même feu qu'on avait allumé au début. Oh, j'espère que ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même feu, Saint-Esprit, a embrasé chacune de ses églises tout au long des âges. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Maintenant, il est le cep principal, nous sommes les sarments. Or, le cep ne porte pas de fruits, que vous pouvez prendre un arbre porteur d'agrumes, comme un oranger, et vous pouvez prendre une branche de pamplemoussier, faire une petite entaille dans l'oranger et greffer ce pamplemoussier. Ça va pousser. Si vous allez là et prenez une branche de citronnier que vous greffez sur un oranger, elle va pousser. Ou que vous prenez un grenadier, que vous le prenez, ou n'importe quel agrume, mandarine ou tangelo, n'importe lequel de ces agrumes, que vous greffez dans cet arbre. Il tirera sa vie de cet oranger, mais il ne portera pas d'orange. Il portera des pamplemousses, il portera des tangelos, il portera des citrons. Pourtant, il tirera sa vie du vrai cep. Mais si jamais ce cep produit un autre cep, un autre sarment, il aura la même vie que celle qu'il a en lui. Il portera des oranges. En fait, ce qu'il a dans sa racine au départ, c'est la vie d'un oranger. Mais les autres peuvent vivre de sa vie tant qu'ils ont la nature d'un agrume. Mais ils ne peuvent pas porter le fruit de l'original, parce qu'ils ne sont pas issus de l'original. C'est pareil pour l'Église. Ils ont fait des entailles dans le cep et ont greffé des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, et ainsi de suite. Eux, ils portent des fruits baptistes, des fruits presbytériens, des fruits méthodistes, mais si jamais cet arbre produit un autre cep, ce sera le même genre de cep que celui qu'il a produit au jour de la Pentecôte, le cep originel. Il parlera en langue et aura en lui la puissance et les signes du Christ ressuscité. Pourquoi ? Parce qu'il vit des ressources naturelles dans lesquelles il est planté. En fait, il n'y est pas planté, il y est né. Loué soit le Seigneur. Oh là là, je ne pensais pas à ça à ce moment-là. Voyez, les autres y sont greffés. On les a greffés dans cet arbre. Alors ils portent leur propre sorte de fruits. Ils ne peuvent pas accepter ceci. Ils ne croient pas en cela, parce qu'ils n'en ont jamais rien su. Mais s'ils étaient nés de cette même vie, qui vient de cet arbre, ce serait la seule chose qu'ils pourraient porter, la vie de la tige originelle. Ces tiges de lampe s'encastraient toutes dans un grand vase, un seul grand support, et 9 différents ou 7 différents porte-lampes en sortaient. De ce fait, chacune de ces lumières tirait sa vie de la source principale, et cela produisait de la lumière, parce que sa chandelle trempait dans ce réservoir principal. Oh, quelle belle image de chacune de ces 7 étoiles! C'est ce que ça représentait, dont la vie est embrasée par le Saint-Esprit ici. Et il, par la foi, il est embrasé par le Saint-Esprit. Et sa vie est une chandelle, ou pas une chandelle, mais une mèche qui est trempée dans le Saint-Esprit, en Christ. Et par cette mèche, il tire la vie de Dieu pour donner de la lumière à son Église. Oh, quelle image du vrai croyant! Quel genre de lumière donne-t-il? Le même genre de lumière qu'il y avait quand la première chandelle avait été allumée. Quand le premier rat de l'Église a commencé, c'était Éphèse. Paul, l'ange de cette Église, était l'une des étoiles. Il y a 7 étoiles, ce qui signifie 7 anges, 7 messagers. Cette semaine, je pourrais prendre les Écritures et l'Histoire pour vous prouver que chacun d'eux est la vérité pour chaque ange et que chaque ange avait la même lumière. C'est vrai, et là, au milieu de ces âges, cet être glorieux à venir. Remarquez, là, il tire la lumière de ce principal réservoir d'huile. La vie trempe dans Christ. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Christ par, ou cachée en Dieu par Christ. Elle est scellée par le Saint-Esprit. Il n'y a absolument aucun moyen de vous éloigner de là. Comment le pouvez-vous? Personne ne peut vous nuire. L'extrémité de votre vie est embrasée par le Saint-Esprit. Oh, elle brûle, elle donne de la lumière. Où est trempée l'autre extrémité de votre vie? En Christ. Vous êtes mort et caché en Christ. Le Saint-Esprit vous protège pour que vous puissiez, que le diable ne puisse pas vous toucher. Amen. Il peut siffler et faire du bruit. Même la mort elle-même ne peut pas vous toucher. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la fin de ce verset. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait fils d'homme. Oh là là, avez-vous remarqué? Des étoiles, des chandeliers, des lampes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Les chandelles, les lumières et les étoiles indiquent que c'est la nuit. Que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Béni soit le nom du Seigneur. Et un vrai ministre de Dieu ne reflète pas la lumière d'une lampe de poche, d'une tige d'allumette, d'une paille qui brûle. Il reflète les rayons dorés de Christ à l'Église, montrant qu'il est le même, qu'il est vivant et qu'il brille sur moi. Amen. Voilà la lumière qu'il reflète. L'étoile reflète la lumière du soleil. Voyez, alors nous reflétons la lumière du Fils de Dieu. Nous faisons la même chose qu'il faisait. Nous donnons la lumière. Quel genre de lumière? La lumière de l'Évangile aux gens. Maintenant, observons-le juste un peu plus loin, alors que nous prenons le reste de ce verset 13. Et au milieu, voilà le milieu, des chandeliers d'or. Quelqu'un qui ressemblait, fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et avec une ceinture d'or sur la poitrine. Maintenant, voici une autre preuve qui montre que cette doctrine a raison de dire qu'il s'agit du jour du Seigneur. L'avez-vous remarqué? Il n'était pas un sacrificateur à ce moment-là. Il n'était pas non plus un roi. Il était un juge. Remarquez, un sacrificateur, un souverain sacrificateur, quand il entrait dans le sanctuaire, ou entrait pour exercer le ministère, pour faire le service, il se saignait au niveau de la taille. Il attachait sa ceinture au niveau de la taille, pour signifier qu'il était de service. Jamais il ne l'attachait au niveau des épaules. Mais ici, il sort, il s'avance, avec la ceinture attachée en haut, avec une écharpe sur son épaule, avec sur la poitrine, le thorax, une ceinture d'or, attachée en haut. Qu'est-ce? Un avocat, un juge. Le juge qui porte son écharpe sur l'épaule, attaché ici en haut, non pas en bas, comme un sacrificateur. Voyez, cela montre qu'il n'était pas dans son sacerdoce. Là, Jean est allé jusqu'au jour du Seigneur et l'a vu venir en tant que juge. Croyez-vous qu'il est un juge? Lisons rapidement Jean 5, 22. Nous verrons s'il est un juge ou pas. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce vrai? Il est le juge suprême. Jean montre que ce n'était pas au jour où il donne sa prophétie en tant que prophète, ni là au jour où il exercera sa royauté, mais que c'était au jour du Seigneur, en sa qualité de juge. Bon, combien savent que quand le sacrificateur portait sa ceinture, la corde autour de sa taille, cela signifiait qu'il était de service? Quiconque lit les testaments et connaît l'Ancien Testament le sait. Quand un sacrificateur est saint ici, il est de service. Il est un serviteur. Mais lui, il était saint ici en haut, un juge. Lisons un peu plus loin. une ceinture d'or était sur la poitrine. C'est ça, ici en haut, il était le juge. Maintenant, nous allons lire les sept éléments de la gloire de sa personne. Oh là là, ceci me fait pousser des cris avant d'y arriver. Remarquez, oh, c'est une chose si merveilleuse. Écoutez bien, et sa tête. Maintenant, regardez bien, là, il y a sept choses à son sujet que j'en mentionne. Sa tête, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, sa voix. Sept choses à son sujet qui sont mentionnées ici, les sept éléments de la gloire de Jésus-Christ. Laissez-moi lire cela. Sa tête et sa chevelure étaient blanches, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans la fournaise. Et sa voix était le bruit de grandes eaux, dont il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quelle vision! Qu'est-ce qu'il a vu ici? Le Fils de Dieu glorifié est un symbole. Bon, soyons prêts maintenant. Oh là là, je pensais qu'il était 21h. Il n'est que 20h. Je n'ai pas encore commencé. Très bien, ça c'est bon. Eh bien, je suis désolé pour ces frères qui sont debout. Ça me rend nerveux de les voir debout, voyez-vous, parce que je sais qu'ils ont mal aux jambes. Si seulement j'avais un quelconque moyen, mes frères, de faire quelque chose, je le ferais certainement. Maintenant, je veux tellement que vous saisissiez ceci. Tenez bon encore un peu, et Dieu vous récompensera abondamment. C'est ma prière. Maintenant, remarquez, pour commencer. Là, nous remarquons que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche. Bon, cela ne signifie pas que c'était ainsi parce qu'il était âgé. Ce n'était pas la raison. Ce n'est pas son grand âge qui était la cause de ceci. Cela était dû à son expérience, à sa qualification et à sa sagesse. En fait, il est éternel. Et ce qui est éternel n'a pas d'âge. Vous comprenez? Prenons d'abord, et nous allons le dépeindre ici comme ceci, et découvrir ce qu'il est. Maintenant, prenons dans Daniel 7, 9, juste un instant. Vous verrez le même tableau dans Daniel, quand il vient comme, là, en tant que l'ancien des jours, et presque tout le monde, des biblistes. C'est exactement vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Daniel 7, verset 9. Je vais commencer au verset 8. Et je considérais la corne, et voici une autre petite corne sortie, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait là des yeux comme un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et je regardais jusqu'à ce que l'on plaçait des trônes. Maintenant, écoutez attentivement, là. Est-ce que vous m'entendez bien, là, au fond? Dites « Amen », si c'est le cas. J'ai posé la question à ma femme, là derrière. Je pense que ce micro-ci c'est celui-là qui fonctionne mieux, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que j'ai crié trop fort dans celui-ci. Très bien. Maintenant, Daniel 7, 9. Et je regardais jusqu'à ce que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. L'ancien des jours. Son trône était comme les flammes de feu, et les roues étaient un feu ardent, et des fleuves de feu coulaient et sortaient de devant lui, et des milliers de milliers le servaient, et 10 millions se tenaient en sa présence, et les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Des cheveux blancs, tous, n'importe qui sait qu'il s'agit des juges autrefois, des jours anciens. Par exemple, les juges anglais portaient une perruque blanche comme la neige. Combien se souviennent de cela? Les anciens juges portaient une perruque blanche parce qu'ils étaient... Et le voici qui montre une fois de plus que Jean se trouvait au jour du Seigneur et qu'il l'avait vu en tant que juge. Amen. pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, pas en tant que prophète, mais en tant que juge. Le Père, c'est dans Jean 5, 22, lui a remis tout jugement, et il est juge maintenant. Il vient pour juger les nations. Oh, ce jour-là, quand vous le verrez ainsi, ses cheveux étaient blancs comme la neige. Daniel l'a vu venir vers l'Ancien des Jours. Regardez-le harmoniser ces deux-là. Très bien. Et les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Non, je me suis trompé de passage, n'est-ce pas? Daniel 7, 9. Oui, voilà. Et les roues et un fleuve de feu coulaient et venaient de lui. Des dizaines de milliers sont venus et le servaient. Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et comme je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré aux flammes pour être brûlé. Les autres animaux furent tous dépouillés de leur puissance, c'est-à-dire que toutes les puissances, les royaumes des gens des nations seront anéantis. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, sur nuée des cieux, arrive quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ce matin, comment l'avons-nous vu venir au verset 3? Il vient avec les nuées des cieux, le fils de l'homme. Sur les nuées des cieux arrive quelqu'un de semblable au fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna une domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Cette domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
People, nations, languages should serve him. This dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.
Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours, dont les cheveux sont blonds comme la laine blanche. Jean s'est retourné et l'a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, debout au milieu des sept chandeliers d'or, avec des cheveux blonds comme la neige. Le juge, pas saint à la taille, mais saint autour de la poitrine, ici en haut, un juge, avec l'écharpe du juge sur son épaule. Il se tenait là, avec une ceinture dorée, pure, sainte et purée, qui retenait sa justice, ce qui le couvrait. Il était couvert de la tête aux pieds. Observez la manifestation des sept éléments de sa personne et de sa gloire. Maintenant, le verset 14, je crois. Sa chevelure, sa tête et sa chevelure étaient aussi blanches que comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient une flamme de feu. La tête, les cheveux, les yeux étaient comme des flammes de feu. Pensez-y, ses yeux, qui avaient autrefois été obscurcis par des larmes humaines, étaient maintenant devenus des flammes de feu. En colère, il se tient là, en tant que juge, en colère. Pourquoi l'avez-vous rejeté, ô pécheur? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y, membres d'Église tiède. Réfléchissez-y, vous, les catholiques, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Réfléchissez-y, vous, les catholiques. Votre Vierge Marie a dû aller jusqu'à la Pentecôte et recevoir le Saint-Esprit, et tituber et agir comme une femme ivre. La mère même de Christ a dû obtenir cela avant d'être admise au ciel. Vous, les femmes, comment allez-vous y arriver sans cela? Réfléchissez-y, vous, les hommes. Chacun de vous, ses cheveux et ses yeux, autrefois obscurcis par des larmes humaines. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose au sujet de ses yeux. Quand il était sur la terre, ils avaient été obscurcis par des larmes, comme ceux d'un homme, car il avait pleuré à la tombe de Lazare. C'est vrai, plein de compassion, son côté humain, il était revêtu, il était Dieu, revêtu d'humanité, afin d'ôter le péché. Et pourtant, derrière ce côté humain, il y avait quelque chose en lui qui pouvait voir jusqu'au fond du cœur d'un homme et tout savoir à son sujet. Pourquoi? Il y avait quelque chose en lui. Pourtant, il était revêtu d'une chair mortelle. Mais il ne savait pas qui c'était. Si vous ne croyez pas, a-t-il dit, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est vrai. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez les œuvres, si vous ne pouvez pas me croire. Oh, combien il a essayé de leur transmettre le message, la révélation. Il pouvait regarder directement dans le cœur d'un homme, tout savoir à son sujet. Quand je pense à ça,
oh, how he tried to get the message to him, the revelation. Could look right down into the heart of a man, know all about him. How I think of that.
Ses yeux, qui avaient autrefois scruté les montagnes, regardaient la souffrance en face, et qui pouvaient pleurer comme un homme, mais qui pouvaient cependant utiliser l'Esprit de Dieu, au-delà de cette vision humaine, pour voir toutes choses, les choses qui avaient été, ces choses qui étaient, et les choses qui viendraient, prédire la fin dès le commencement, et ce, parce que Dieu était derrière ses yeux humains. Laissez Dieu entrer dans votre vie et prendre le contrôle de vous, et il vous montrera les choses à venir. Car ce ne sera plus vous, ce sera le Saint-Esprit caché là, dans votre vie, qui regardera à travers vos yeux mortels pour révéler des choses. Oh, gloire à Dieu! Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia! Parfois, il est obligé de vous faire dormir afin de pouvoir regarder par vous. Mais bien des fois, il vous fera certainement voir des choses. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et ma servante, je répandrai mon esprit. Non pas sur mes diacres, sur mes pasteurs et sur quiconque le voudra. Sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vous vous demandez pourquoi je crie comme ça. Mais on verra cela dans ces âges de l'Église. Oh, voilà qu'il était là, avec ses yeux. Et souvenez-vous, un de ces jours, ses yeux qui avaient été obscurcis par des larmes, ces mêmes yeux seront là, au jugement. Maintenant, ils sont comme des flammes de feu qui parcourent toute la terre. Il n'y a rien qui arrive sans qu'ils le sachent. Oh là là, c'est enregistré. Ils parcourent la terre, observent chaque mouvement, connaissent chaque pensée, c'est tout ce que vous faites. Les sentiments du cœur, ce que vous avez l'intention de faire, il est au courant de tout. Il sait si vous l'aimez, il sait si vos motifs sont justes pour le servir. Il est au courant de tout. Et quand sera-t-il, quand vous comparaîtrez ce jour-là, lorsque tous les péchés seront à nu devant lui, et qu'il sera là au jugement du trône blanc? Oh Dieu, délivre-moi de cela. Je ne veux pas voir ces choses. Quand un Dieu en colère s'avance là, le feu jaillissant de ses yeux, plein de justice, coiffé d'une perruque blanche sur la tête comme ça, et de ses yeux jaillit du feu, qui connaît toutes les pensées de votre cœur et toutes vos intentions. Cache-moi dans le rocher des âges, brisé pour moi. Un vieil ami avait l'habitude de chanter, « Quand ce monde se consumera, reste près de moi. » Reste près de moi, et que ton sein soit mon oreiller. Cache-moi dans le rocher des âges. Oh Dieu, je ne veux pas ton jugement. Je ne veux pas ton... Ce que je veux, c'est ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, pas ta justice. Accorde-moi simplement ta miséricorde. Pas tes lois, ni aucune. Accorde-moi seulement ta miséricorde, Seigneur. C'est tout ce que je peux demander. Je n'ai rien à t'apporter. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Je veux seulement rester à ta croix, tout simplement. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est venu et a pris ma place. Observez maintenant les sept éléments de sa personnalité, de sa personne, et vous verrez ce qu'il a fait. Sa tête était blanche comme de la neige, comme de la laine, les cheveux blancs, ses yeux étaient comme, voyons voir, sa tête était blanche comme neige, ses yeux étaient des flammes de feu, ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme ayant été embrasés dans la fournaise. Regardez maintenant, nous venons de voir qu'il est couvert, vous savez, maintenant regardez bien, sa tête, ses yeux, maintenant il décrit ses pieds qui sont semblables à de l'airain. Regardez le contraste avec cette image-là, ce que Jean a vu de Jésus et ce que Daniel a vu de l'Empire mondial, la tête d'or et tout. Regardez ce qu'il en était ici, alors qu'il se tenait là, de l'airain. Qu'indique l'airain? L'airain indique le jugement divin. Cela montre que son dessein bien arrêté était de venir ici sur la terre, en tant que Dieu, de se faire chair. Il est mort pour nous, a pris les jugements de Dieu, le jugement divin, et il a reçu un royaume qui est d'airain, solide, qui ne peut pas être ébranlé. Il n'y a rien qui soit plus dur que les reins, et on n'a encore rien trouvé qui puisse le tremper. Le jugement, les reins indiquent que le jugement divin a été exercé. Regardez le serpent d'airain dans le désert. Que représentait ce serpent d'airain? Ce serpent représentait le péché. Mais étant fait d'airain, le jugement avait déjà été exercé sur le péché. Maintenant, remarquez aussi du temps d'Élie, quand ils avaient rejeté Élie comme prophète. Ce petit fil, l'âge de l'Église d'autrefois, un de ces jours, j'aborderai cela et je vous montrerai qu'Israël a aussi eu cet âge de l'Église, qui sont les types parfaits de ceux-ci. Et dans le rage de l'Église, du temps d'Élie, ils l'ont rejeté et ont passé 3 ans et 6 mois sans pluie. Et ce vieux prophète a dit que les cieux ressemblaient à de l'airain, le jugement divin sur les nations, pour avoir rejeté Dieu et choisi d'écouter Jézabel. L'airain représente aussi le jugement divin, l'autel où le sacrifice était immolé, l'autel d'airain, immolé. Les fondations mêmes étaient d'airain, le jugement. Il a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu et a pris notre jugement sur lui. Prenons Apocalypse 19, 15, un petit instant, et voyons ce qu'il a fait. Apocalypse 19, 15. Lisons cela un instant si je le retrouve. Oui, commençons vers le... Voyons voir. Vers le verset 12. Ses yeux étaient une flamme de feu. Sur sa tête était un diadème, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu du vêtement teint de sang. Son nom était appelé la parole de Dieu. Maintenant, rappelez-vous, son nom n'était pas la parole de Dieu. Son nom était appelé ainsi. Voyez, son nom était appelé la parole de Dieu. Les armées du ciel, les armées qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper la nation. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera, quoi ça? A foulé la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Qu'a-t-il fait? La colère de Dieu était sur nous, parce que nous étions pécheurs. Pas vrai? Personne ne pouvait se sauver lui-même. Il n'y avait rien que nous puissions faire. Nous sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Qu'a-t-il donc fait? Il est venu sur la terre, alléluia, et a foulé la cuve du vin. Toute la colère du Dieu Tout-Puissant a été déversée sur lui. Tu es digne, ô agneau de Dieu, car tu as été immolé. Il a pris les péchés du monde sur lui, et il a porté notre péché, afin que Dieu déverse son ardente colère sur lui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jamais un homme n'est mort comme cet homme. Il a tant souffert que le sang et l'eau se sont séparés dans son corps, et des gouttes de sang ont coulé de son front avant sa mort. La cuve du vin de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant, un de ses jours, de ses pieds d'airain, de sa justice, gloire, quand il viendra en tant que juge, il foulera l'Antichrist et tous ses ennemis. Alléluia! Il parcourra la terre avec une verge de fer dans sa main. Amen! Oh, repens-toi, ami pécheur, pendant que tu as l'occasion de te repentir. Toi qui essaies de remettre cela plus tard et de penser que ce n'est qu'une petite histoire qui n'arrivera pas. Ça va arriver. Ça ne pourra jamais m'arriver. Ça t'arrivera. Des pieds d'airain qui foulent ses ennemis. En effet, il a souffert et a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu afin de payer le prix de nos péchés. Et nous, pauvres et misérables vermissons coupables que nous sommes, nous levons notre petit nez, lisons un genre de livre daté, et nous essayons de nous convaincre que Dieu n'existe pas. Et nous disons, une telle chose n'existe pas. Le jugement n'aura pas lieu. Il se servira de ses pieds d'airain pour écraser son ennemi. Il foulera aux pieds l'Antichrist. Et là, il prendra ses églises apostates et les jettera dans l'éternité quelque part, dans un feu dévorant où elles seront consumées et anéanties. Puis il régnera sur la terre, lui et son église, pour toujours. Gloire, la tête blanche comme de la laine blanche, la justice, l'expérience, l'éloquence, la suffisance, la sagesse. L'âge avancé, le blond indique la sagesse, l'ancienneté. Il sait ce qu'il fait. Il est la source de la sagesse. Il est la source de l'expérience. Il est la source de toute bonne chose. C'est pourquoi il est représenté ici comme le Fils de l'homme et portait ses cheveux blonds qui pondaient. Daniel l'a vu il y a plusieurs centaines d'années, 700 ans, et il a dit, il était l'ancien des jours. Quelqu'un de semblable au Fils de l'homme est arrivé avec puissance et s'est uni à cet ancien des jours. Et les juges se sont assis. Bon, je voudrais juste vous demander quelque chose. Je m'adresse à vous, Église tiède. 10 vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages. 5 étaient folles. Comme nous avons vu ce matin, c'est cet arbre greffé. Maintenant, souvenez-vous, alors qu'elles sortaient à la rencontre de Dieu, maintenant, regardez bien. La Bible dit, les livres furent ouverts. Daniel 7, 9. Les livres furent ouverts. Là, c'est le livre des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert. Qui est-ce qui l'accompagnait? L'Église qui avait été emmenée dans l'enlèvement. Oh, des dizaines de milliers, de milliers, de milliers, de milliers l'accompagnaient et le servaient. Sa femme, l'épouse. Oh, gloire! Sa femme l'accompagnait. L'Église. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. Un autre livre a été ouvert. Celui de la Vierge endormie, et ainsi était jugé chaque homme d'après le livre. On vous demandera la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait. Que direz-vous à ce moment-là? Vous savez ce qu'il en est maintenant. Vous savez ce qu'il en est. Peut-être que vous ne le saviez pas avant, mais maintenant, vous savez ce qu'il en est. Voyez? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Celui qui refuse, il sait ce qu'il en est, mais il refuse cela. Que deviendront-ils? Ses pieds sont semblables à de l'airain, le jugement divin. Maintenant, voyons voir. Nous allons bientôt à la fin de la page maintenant. Chevelure comme de la laine blanche. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables de l'airain embrasé dans une fournaise. Et sa voix était le bruit de grandes eaux. La voix de grandes eaux. Que représentent les eaux? Si vous voulez le noter, prenez Apocalypse 17, 15. Et vous verrez que la Bible dit, les eaux que tu as vues, ce sont les masses, des foules, et des peuples, et des langues. Très bien, la voix. Quelle chose horrible pour une âme à la dérive sur la mer de la vie, sans pilote pour la guider. À la dérive, entraîné par les flots, d'entendre le mugissement des grandes cataractes, des chutes. Quelle horrible chose ce serait pour une âme à la dérive. La voix de grandes eaux. Quelle est sa voix? C'est le jugement, la voix des ministres qui, par le Saint-Esprit, ont crié aux gens qui se tiennent là, dans chaque âge. La voix de grandes eaux qui criaient aux masses et aux foules. La voix de ces 7 étoiles qui sont dans sa main. Eux qui, dans chaque âge de l'Église, ont prêché le baptême du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus. Le parler en langue. La puissance de Dieu. La résurrection de Christ. La seconde venue. Le jugement divin. La voix de grandes eaux est sortie de celui qui était semblable au Fils de l'homme. De grandes eaux. Qu'en sera-t-il de savoir que vous vous êtes assis dans les réunions et que vous avez entendu que vous devriez vous mettre en ordre avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit, vous, âme à la dérive, qui avez entendu cette voix parler dans cette réunion où vous êtes assis et avez entendu les jugements de Dieu être prêchés et l'avez refusé. La grande chute est juste en dessous de vous, les grandes cataractes qui vous conduiront à votre perte éternelle. La voix de grandes eaux, sa 4e personne. La voix de grandes eaux. Comment ferez-vous alors que c'est enregistré dans la gloire? Alors que cette voix ce soir est enregistrée. Votre voix est enregistrée. Vos pensées sont enregistrées. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Remarquez, Votre voix résonne plus fort au ciel que votre. Je veux dire, vos pensées résonnent plus fort au ciel que votre voix sur la terre. Certainement, Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur. Il est au courant de tout. Il a dit aux pharisiens, hypocrites, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous m'appelez maître et bon, et je sais, je peux regarder directement vous et voir que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas sérieux. Oh, qu'en sera-t-il en ce jour-là, quand tonnera cette voix qui vient de grandes eaux? Beaucoup d'âges de l'Église se forment. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose d'autre. Laissez-moi vous dire quelque chose à vous qui êtes sauvés. Laissez-moi vous dire ceci. Maintenant, vous, âme à la dérive, vous, pauvre âme à la dérive, qui dérivez vers cette grande cataracte là-bas, faites attention. Ce sera terrible pour vous quand vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de salut pour vous. Vous ne pourrez plus être sauvé à ce moment-là. Vous saurez que votre destin funeste est juste là devant vous. Quand vous saurez que dans quelques minutes, vous entendrez cette voix dire « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, allez dans le feu perpétuel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous le saurez quand vous entendrez le mugissement de ces grandes chutes, les voix de ces réunions, lors de votre départ de ce monde. Oh, quelle chose horrible! Quel cauchemar! Ne laissez pas cela vous arriver, mes amis. Repentez-vous, mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant, pendant que vous le pouvez. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'autre. Qu'y a-t-il de plus doux pour un homme qui est ancré que de se détendre sous l'arbre qui est toujours vert, pour entendre le murmure du ruisseau ondoyant? Oh, voilà l'Église, assise dans les lieux célestes. Alors la voix de Dieu murmure doucement et lui parle. Vous voyez ce que c'est? C'est une condamnation pour le pécheur et une bénédiction pour le sauvé. Un homme qui a ancré sa barque en sécurité sur le roc Jésus-Christ et qui se détend et écoute comme il peut se reposer. Entrez dans ce repos. Comme j'aime aller là où l'eau coule. Chaque fois que nous allons à la pêche et tout, j'essaie généralement de trouver un endroit où l'eau murmure en ondoyant, parce que c'est tout simplement reposant. Vous l'entendez parler toute la nuit. Oh là là, n'est-ce pas magnifique quand vous ancrez réellement votre âme en Christ, dans ce lieu où vous pouvez vous tranquilliser devant lui, entendre sa voix qui vous parle. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la vie éternelle. Je t'aime. Je te connaissais avant la fondation du monde. J'ai mis ton nom sur le livre. Tu m'appartiens. Ne crains pas. C'est moi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Alors je chante. J'ai ancré mon âme dans un havre de repos. Je ne naviguerai plus la mer déchaînée. La tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, je suis à l'abri. Souvenez-vous, cette même voix qui vous parle avec douceur condamnera le pécheur. Ce même déluge qui a sauvé Noé a détruit le pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? La voix de grandes eaux. Regardez bien, là, des cheveux comme de la laine, et des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme de l'airain, et une voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Maintenant, prenons le verset 20 juste ici. Et le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite est des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont 7 anges, ou 7 messagers, 7 ministres, des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Il interprète cela pour lui, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Un ange pour chaque âge de l'Église. Oh, ce sera merveilleux cette semaine, quand nous retournerons dans l'histoire et identifierons ces anges, et que nous verrons exactement quel était leur ministère. Ils avaient le même ministère, exactement le même, tout au long de l'âge dans cette petite Église. Il y a quelque temps, quelqu'un a dit, « Vous savez, l'Église catholique, il y a un bon dicton qui dit que c'est la vraie Église, parce qu'elle a tenu bon tout au long des âges. » J'ai dit, ça, ce n'est pas un mystère, puisqu'elle avait le soutien total du gouvernement et tout. C'est ainsi qu'elle a pu tenir bon et braver les tempêtes. Mais ce qui est un mystère pour moi, c'est comment cette toute petite minorité a pu braver la tempête. Eux qui ont été sciés, jetés au lion, écartelés, dévorés, brûlés, et dont les lions tués et tout. Comment ils ont survécu à cela? Cela montre que la main de Dieu était avec eux. C'est tout. Aujourd'hui encore, sa lumière continue de brûler. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, les sept étoiles qui étaient dans ma main droite. Il avait sept étoiles dans sa main droite, ce qui signifie les sept ministres des sept âges. Oh, c'est merveilleux. Là, nous ferons un retour en arrière et nous identifierons le ministre qui a apporté le message à l'église d'Éphèse. Le ministre qui a apporté le message et qui s'y est tenu jusqu'à la mort. Pareil pour l'église de Smyrne, pour l'église de Pergame, de Thyatire, et ainsi de suite, tout au long des âges, jusqu'à cet âge-ci. Les ministres qui ont apporté et conservé la lumière, et l'ont préservée comme la lumière originelle du début, ceux par qui la lumière a été apportée, il les tenait dans sa main droite. Pensez-y, la main droite ne signifie pas que Christ est littéralement assis à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite, puisque Dieu est esprit. Mais Christ était la droite qui est la puissance. Votre bras droit, c'est cet homme qui se tient à vos côtés, celui qui vous est le plus proche. Et souvenez-vous, les sept étoiles étaient dans sa main droite. Pensez un peu, ils tiraient leur énergie, leur lumière de lui. Ils étaient totalement sous son contrôle, dans sa main droite. Oh, l'on est de même pour chaque véritable serviteur de Dieu, tenu dans « qui pourrait leur faire du mal ?» Qui pourrait leur faire du mal? Comme s'était crié l'un des anges là-bas au commencement. Souvenez-vous qu'un ange signifie un messager. Nous aborderons ces choses plus profondes plus tard cette semaine. Un ange signifie un messager. Et il a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Serait-ce la maladie? Serait-ce le danger? Serait-ce la nudité? Serait-ce l'épée? Serait-ce la mort? Je suis convaincu, a dit Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, car nous sommes complètement soumis à sa droite. Que quelqu'un dise « Exaltez, exaltez !» ça ne les dérange pas du tout. « Vous êtes des fanatiques religieux !» Ils ne l'entendent même pas. Ils sont complètement soumis et tirent leur vie du bras droit de sa puissance. Et ils reflètent sa lumière dans la douceur, la bonté, la bienveillance et la patience. Les signes, les prodiges et les miracles. Que le monde appelle cela de la sorcellerie ou n'importe quoi d'autre, cela nous est égal, parce que nous savons que nous lui sommes soumis dans sa droite. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là! Maintenant, dépêchons-nous, parce que nous ne voulons pas vous épuiser. Dans sa main droite, sept étoiles. Maintenant, la septième et dernière représentation de sa personne. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Je voulais dire que c'est la sixième. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, la voix de grandes eaux. Et de sa bouche, il avait les étoiles de sa main droite. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, savez-vous ce qu'est une épée aiguë à deux tranchants dans la Bible? Examinons cela pour que vous le sachiez. Prenez Hébreux 4, 2. Juste une page ou deux en arrière, vous le trouverez. Voyez, Hébreux, c'est juste avant l'Apocalypse, ici. Jude, puis Hébreux. Bon, trouvez-le maintenant. Ou Hébreux, le chapitre 4 d'Hébreux. Nous y voilà. Très bien. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est plus vivante et plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis, ils disent que vous lisez dans la pensée des gens. C'est la parole de Dieu manifestée dans son Église. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Dites, je viens de penser à quelque chose d'autre là. Je ne sais pas si j'ai noté une écrit. Prenez Apocalypse 19, juste un instant. Reprenons ça. Je pense que c'est ça. Je suis peut-être Apocalypse 19, autour du verset 11. Puis je vis les cieux ouverts, et voici parut un cheval blanc. Voici le blanc qui revient. Le jugement. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge, combat avec justice. Vous savez qui c'était, n'est-ce pas? Très bien. Ses yeux étaient une flamme de feu. Qui était-il? Sur sa tête était diadème. Oh, là, il est parvenu à la royauté. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Qu'est-ce qui est sorti? Le cavalier sur le cheval blanc. Aussi dans Apocalypse 7, quand c'est 8, je crois. Quand le cheval blanc, non, c'est 6. Quand le cavalier sur le cheval blanc est sorti, il lui était donné un arc pour vaincre et pour vaincre. Une épée est sortie de sa bouche. Qu'est-ce qu'il était? Le cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse. Remarquez l'épée. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. La parole. Et finalement, par sa parole, quand elle sera manifestée à tous les fils de Dieu, il foulera aux pieds chaque nation par sa parole, par cette épée tranchante. Regardez ce qui s'est passé ici, alors que nous le lisons. Sa main droite, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était semblable au soleil qui brille dans sa force. Une épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce qui sortait de la bouche de cette personne? La parole de Dieu. C'est une épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle discerne les pensées du cœur, les intentions. Elle pénètre même au-delà de la viande, la chair, les cellules sanguines, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle de l'os, au-delà de cela, même jusqu'à discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son Église. Elle habite parmi nous. Ses anges sont dans sa main. Ils exercent un ministère. Dieu compte sur son Église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour que nous apportions la lumière de l'Évangile à un monde qui se meurt, lié par le paganisme et les traditions. Dieu met ce fardeau sur moi et sur vous. Malheur à nous si les païens meurent sans l'avoir connu. Oh, on leur a donné de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique et quelques tracts religieux. Et on a fait d'eux une bande de prosélytes, rien d'autre. Moi, je parle de l'Évangile. L'Évangile ne consiste pas en la parole seulement. C'est Paul qui l'a dit. Paul a dit, l'Évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais que cette parole a été manifestée. Quand la parole, par le Saint-Esprit, est... La parole est plantée dans un cœur qui a le Saint-Esprit. Elle produit ce que la parole dit qu'elle produirait. Et la parole peut discerner les pensées du cœur. Gloire! Oh là là! Oh, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole. Elle sort de sa bouche une épée aiguë à deux tranchants pour réveiller les païens. Quelque chose doit se passer un de ces jours. Oui, la parole de Dieu. Son nom était la parole de Dieu, la parole manifestée. Regardez, Jésus a dit, allez par tout le monde. Marc 16, sa dernière salutation à l'Église, avant qu'il revienne pour se révéler dans l'âge de l'Église. Il a donné cette commission à l'Église. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Quoi? Prêchez l'Évangile. Marc 16. Prêchez l'Évangile à toute la création. Qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, il s'agit de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il en soit ainsi. Maintenant, regardez bien. À toutes, pas seulement enseigner la parole. Il n'a jamais dit « allez enseigner la parole ». Il a dit « allez prêcher l'Évangile ». Pas enseigner la parole, prêcher l'Évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à cet Évangile. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains malades, les malades seront guéris. Et ils s'en allèrent, dit l'Écriture, prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ça l'Évangile, la démonstration de l'Évangile. Ces miracles accompagneront combien? Dans chaque âge, jusqu'à la fin du monde. Il y a cette petite minorité qui se succède et qui tient cette lumière. Pas étonnant que Jésus ait dit, « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le petit troupeau, c'est toujours la minorité, pas la majorité. Très bien, une citation de plus maintenant. Nous avons vu le verset 20. Voyons donc ce verset-ci maintenant. Bon, le verset 16. il avait dans sa main droite sept étoiles. Prenons maintenant le et le son visage. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était semblable au soleil qui brille dans sa force. Si vous prenez, voyons voir, Matthieu 17. Prenons cela tout de suite, pendant que nous y sommes. Donc, nous le lisons juste en passant, et pour bon nombre de ceux qui le prennent, prenons, ou qui le prennent en note, nous les laisserons simplement lire cela pour que nous le sachions. Matthieu 17, très bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, à l'écart, dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il avait été transformé. Qu'a-t-il fait? Il s'est transformé et est entré dans le jour de sa venue. Maintenant, regardez bien. Juste quelques heures avant cela, Jésus avait fait cette déclaration ici avant, dans l'autre chapitre. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, combien savent ce que je m'apprête à dire? Quelques-uns de ceux qui sont ici ne passeront point, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans la gloire. Pas vrai? Et il a pris Pierre, Jacques et Jean, les trois témoins. Parce que dans l'Ancien Testament, tout, chaque parole, était établie sur la déposition de trois témoins et les emmener là-haut sur la montagne. Remarquez ce qui vient en premier. Oh, je ne peux tout simplement pas m'arrêter ici. Il faut vraiment que je prenne ceci. Regardez, quelle est la première chose qu'ils ont vue? Ils ont emmené Jésus là-haut sur la montagne, ou ils les ont emmenés là-haut, et il a été transfiguré devant eux, transformé. Son vêtement brillait comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Et là, lui sont apparus Moïse et Élie. Sous quelle forme le Fils de l'homme vient-il là? Ceux qui apparaîtront premièrement seront Moïse et Élie. Maintenant, remarquez, avant le retour de Jésus sur la terre, là, c'est un peu à l'avance, mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre et ramènera le cœur des enfants au Père. La Bible dit, Jésus l'a vu ici, les apôtres l'ont vu ici, l'ordre de la venue du Fils de l'homme glorifié. Il doit être glorifié et revenir. La première chose avant qu'il le voie, qu'est-ce que c'était? Élie, puis quoi? Moïse, Israël qui retournait là-bas, ceux qui observaient la loi, et ensuite le Fils de l'homme glorifié. Alléluia! Voyez-vous l'ordre de sa venue? L'esprit d'Élie, ou le témoin du dernier âge de l'Église, voyez, qui vient en puissance pour le manifester. Ensuite, 144 000 Juifs doivent se réunir sur le mont Sinaï, où Israël lui-même est devenu une nation, la nation la plus ancienne du monde, le drapeau le plus ancien du monde. Ils ont leur propre nation, leur propre drapeau, leur propre armée, leur propre monnaie et tout le reste. Ils sont un des membres de la Société des Nations, parce qu'ils sont une nation. Jésus a dit qu'ils ne devaient jamais être rejetés avant que toute chose soit accomplie. Un mystère au vu de la manière dont ce groupe de Juifs a été persécuté partout, rejeté, expulsé et chassé, tout comme l'Église, tout au long de ses âges de rejet. Et pourtant Jésus a dit, « Quand vous verrez le figuier bourgeonner, cette nation retourner et redevenir une nation, le temps est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Cette lignée, ce peuple ne passera point. Hitler a essayé de les tuer. Mussolini a essayé de les tuer. Staline a essayé de les tuer, ainsi que tous les autres. Mais ils n'auront jamais de tâche, ou plutôt ne seront jamais bannis de la terre. Ils seront un peuple et une nation là-bas. Amen. Moïse et Élie viendront. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Très bien. Le soleil qui brille dans sa force. Son visage transformé, transfiguré. Autre chose maintenant, dans Apocalypse 21-23, si vous voulez le noter, dans la Nouvelle Jérusalem, 21-23, il est l'agneau qui est dans la ville, c'est lui qui en est la lumière, qui brille, car on n'avait pas besoin de lumière dans cette ville. Le soleil ne s'y lèvera pas, parce que l'agneau qui est au milieu de la ville en sera la lumière. Et les nations qui seront sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Amen. Il est la lumière de l'agneau. Oh, n'êtes-vous pas heureux de cela? Pas seulement ça, mais il est aussi à sa venue. Jean l'a vu au jour du Seigneur, le soleil de justice. Prenons Malachie. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4. J'ai une petite histoire à vous raconter au sujet de ma précieuse épouse qui est assise là-bas au fond. Je lui ai donné du fil à retordre avant notre mariage. J'ai essayé de me racheter après notre mariage. Je ne savais pas si je voulais me remarier ou pas. Alors, elle était complètement brisée. Je trouvais qu'elle était une fille trop bien et il valait mieux pour elle d'épouser un brave homme qui prendrait soin d'elle. Je pensais même que je n'en étais pas digne et je ne le suis pas de sa gentillesse de toute façon. Elle était donc toute bouleversée et ne savait plus quoi faire. Il y a des années de cela, une vingtaine d'années, elle était tellement bouleversée qu'elle pleurait jour et nuit. J'essayais de m'éloigner d'elle, pas parce que je ne l'aimais pas, parce que je ne voulais pas lui faire perdre son temps. En fait, pour qu'elle trouve quelqu'un, un brave homme, parce qu'elle était une fille trop bien pour continuer comme ça. Et moi, de juste sortir avec elle et tout. Je me disais qu'elle m'aimait, et je savais que je l'aimais. Je m'étais donc dit, eh bien, je vais juste essayer de... Je donnerai rendez-vous à une autre fille et on sortira ensemble, pour qu'elle soit mécontente de moi. C'était comme si je l'avais tuée. J'ai vraiment regretté cela par la suite. Elle était complètement brisée. Je lui ai parlé, j'ai dit, tu es une fille trop bien. Je ne veux pas te faire perdre ton temps comme ça. Et elle a dit, mais je t'aime. Toi, Bill, tu es le seul que je puisse aimer. Elle a dit, je t'ai toujours aimé. J'ai dit, j'apprécie cela. Mais, je suis un ermite. J'ai dit, je vais vivre comme un ermite. C'est tout. Tu vois, je ne vais pas me marier du tout. Et elle y tenait tellement, vous savez, la pauvre petite. Elle est allée dans la remise. Elle est allée là-bas, s'est agenouillée et elle a dit, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas te désobéir. J'aime pourtant Bill. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, veux-tu me donner un peu de consolation? Veux-tu m'aider un peu? Je ne t'ai jamais demandé ceci de ma vie, Seigneur. » Et j'espère ne plus jamais avoir à te le demander, a-t-elle dit. Mais si tu veux bien m'aider, donne-moi un passage de l'Écriture alors que j'ouvre cette Bible. J'ai entendu des gens dire que tu le fais. Et quand elle l'a ouverte, c'était Malachie 4. Voici, je vous donne ou vous enverrai à vous Élie, le prophète, avant que le terrible jour de l'Éternel arrive. Elle a dit, je me suis levé de là, plus convaincu que nous allions nous marier que jamais. Voyez, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous ceux qui pratiquent le mal, seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil, S-O-L-E-I-L, soleil de la justice se lèvera. Et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil qui brille dans sa force. Oh, la force du Fils de Dieu qui brille au milieu de nous ce soir. Il se tient là, au milieu des sept chandeliers d'or, dans les sept éléments de sa personne, en tant que juge, en tant que celui qui a souffert et qui est mort pour nous, celui qui a pris sur lui le jugement divin et qui a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il est une redoutable cataracte pour le pécheur, pour vous, les âmes perdues sur la mer de la vie, et un doux sauveur pour l'Église ancrée dans le repos, qui écoute gazouiller le ruisseau alors qu'on se repose, parfaitement satisfait en Christ. Quel moment! Il fait briller sur nous ses chauds rayons. Ne crains pas, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Il n'y en a point d'autre que moi. Je suis à la fois l'Alpha et l'Oméga. À celui qui a soif, je donnerai des sources de l'eau de la vie gratuitement. Oh, quelle promesse et quelle histoire d'amour! L'agneau est au milieu de cette ville qui n'a pas besoin de lumière. Il est le soleil de la justice qui a la guérison sous ses ailes.
He's a lily of the valley, the bright and morning star.
Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Dans le danger, il est là. C'est lui qui tient l'épée. Toujours, il m'apprend à m'appuyer sur lui. Alléluia. Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Oui, monsieur. Oh, cette grande étoile du matin qui sort pour briller, saluer le jour qui se lève, l'annoncer en disant, le jour est sur le point de se lever, le Fils approche, et il se met en avant de toutes les autres étoiles, oh là là, avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, revenons à notre message. Nous terminons maintenant, afin de nous préparer pour demain soir, parce qu'il est 20h45. Nous ne voulons garder personne trop longtemps afin que nous puissions revenir ici. Très bien, le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, son visage, il était un juge ou autre chose qui montrait qu'il avait été ravi au jour du Seigneur. Croyez-vous cela? Il avait été ravi au jour du Seigneur. Et là, il a vu le Seigneur en tant que juge, pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, mais en tant que juge. Il est un juge. Ne croyez-vous pas ça? La Bible dit qu'il est un juge. Ici, il était entièrement vêtu comme le juge, montrant ce qu'il avait fait, ce qu'il était pour le pécheur, ce qu'il était pour le chrétien. Voici qu'il se tient là avec la voix de grandes eaux et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Maintenant, le résultat, le verset 16. C'est le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oh là là, le prophète ne pouvait plus rester debout plus longtemps en voyant une telle vision. Il l'avait tout simplement vidé de sa force. Il est tombé à ses pieds comme mort. Maintenant, regardez bien. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Oh là là, pas un prophète, Dieu. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier de l'Apocalypse, le dernier de l'Apocalypse. Je suis celui qui était, je suis celui qui est, je suis celui qui vient. Voyons voir. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, maintenant même. » Puis il s'est écrié, « Amen. Je tiens les clés de la mort et séjour des morts. Maintenant, n'ayez pas peur. Pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi l'Église manquerait-elle de garder ça, de penser à sa parole? Arrêtons-nous ici juste un instant, parce que nous terminons. Pourquoi cette Église aurait-elle peur? Qu'a-t-il déjà promis qu'il n'a pas manifesté devant nous? Pourquoi craindriez-vous un châtiment ou un au-delà? Ne crains point. Je suis celui qui était, celui qui est, et qui vient. Je suis le premier et le dernier. J'ai ici même les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? J'ai vaincu et conquis l'enfer et la mort, c'est-à-dire la tombe et le Hadès, la mort elle-même, le Hadès lui-même. Pour vous, j'ai vaincu tout ça. J'ai conquis l'enfer, la mort, la tombe. Quand il était sur la terre, il était le seul grand. Beaucoup d'hommes ont entrepris des conquêtes. Le saviez-vous? Napoléon a cherché à conquérir le monde, et il l'a fait à l'âge de 33 ans. De l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, Napoléon était un prohibitionniste. Il ne croyait pas à la boisson ou des choses de ce genre. Il est allé en France. Il n'était pas un Français. Il venait du Nil. Il est allé là-bas pour se venger de la France, parce qu'il n'aimait pas ce pays. Il n'aimait pas la France. Mais il avait été vaincu. Puis, dans une autre campagne, il a conquis la France. Et avec ses Français, il a conquis le monde. Et à l'âge de 33 ans, il s'est assis et s'est mis à pleurer, parce qu'il n'y avait personne d'autre à conquérir. Et il est mort alcoolique, vaincu. Il ne pouvait même pas se conquérir lui-même, voyez. Et puis, il a rencontré son Waterloo à Waterloo. Il est arrivé à sa fin à Waterloo. J'ai été là-bas, et j'ai vu les vestiges des symboles anciens et autres. Là-bas, quand nous sommes allés dans ce pays. Maintenant, nous prenons ce conquérant-là. Il a commencé à un jeune âge et il a orienté sa conquête dans la mauvaise direction. Il est mort dans le déshonneur. Mais une fois, il y a un autre jeune homme qui est venu dans ce monde. Il est mort à 33 ans et il a conquis tout ce qu'il y avait à conquérir. Quand il était sur la terre, il a conquis les passions, l'orgueil, il a conquis la maladie, il a conquis les démons. Quand il est mort, il a conquis la mort. Quand il est ressuscité, il a conquis l'enfer. Il est monté et a conquis tout ce qui était contre l'humanité. Cela a été jeté dans la cuve du vin de Dieu. Il l'a foulé, a conquis la mort, l'enfer, la tombe, la maladie, les formalités et tout. Il a conquis tout cela est ressuscité le troisième jour, a conquis toutes les atmosphères d'en haut, a retranché ce brouillard qui existait entre Dieu et les hommes, et a connecté le ciel et la terre ensemble. Gloire ! Oh là là ! Il se tient là, le puissant vainqueur, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Le voici, j'ai les clés de la mort et de l'enfer accrochées à mon côté. Ne crains point, il a posé sa main droite, sa puissance sur lui, et l'a relevé par la puissance de sa droite. Il a dit, ne crains point, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était vivant, qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Oh, regardez, voici le puissant conquérant. Regardez, le voici à la vue de tous. Le voici, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains afin d'être en contact avec eux comme dans le jardin d'Éden. Maintenant, l'homme, j'allais ravaler ceci, mais je vais le dire, l'homme est omnipotent. Vous n'y croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, « Tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas en votre cœur, cela s'accomplira. Il vous sera fait ce que vous aurez dit. » Que se passe-t-il quand deux omnipotents se rencontrent? Quand Dieu et l'homme s'unissent, deux omnipotents, quelque chose doit se passer. Quel que soit ce que vous déclarez par cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole, cela crée une puissance qui sort et qui fait s'accomplir les choses qui n'existent pas. Elle agit sur elles comme si elles existent, parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Le voilà. Oh, n'est-il pas merveilleux? Voyons si on a d'autres bonnes choses. Le verset 18, le verset 19 maintenant. Jean, que s'est-il passé quand il a vu son visage? Le résultat, il est tombé à ses pieds. Il ne pouvait tout simplement plus tenir debout. Sa vie humaine avait été vidée. Il ne pouvait plus tenir du tout. Il était un vainqueur. Il avait déjà vaincu. Là, il donne un ordre. Nous nous acheminons vers la fin du chapitre, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Nous avons vu le verset 20, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans la main droite, sont sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont sept anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Oh, c'est à couper le souffle, mes amis! Le voir se tenir là, dans le suprême, la suprématie de sa divinité. Il est le juge, le sacrificateur, le roi, l'aigle, l'agneau, le lion, l'alpha, l'oméga, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Il a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu et lui a été agréable en tout point, tellement que Dieu, il a dit à la croix, quand il était élevé, il a dit, tout est accompli. Il était si agréable à Dieu que l'esprit qu'il a quitté est revenu le matin de Pâques, s'est saisi de lui et l'a ressuscité pour notre justification. Là, Jean a levé les yeux et l'a vu debout là-bas, avec des pieds d'airain, des yeux comme des flammes de feu qui parcourent toute la terre. Daniel l'avait vu 700 ans auparavant, dans la même position, la même chose, le même homme se tenait là, l'ancien des jours, et quelqu'un de semblable au Fils de l'homme qui s'est uni à lui, et tout jugement lui était remis. Il se tenait au jugement du trône blanc. En voyant ces choses, quel genre de personnes devrions-nous être, mes amis? Que Dieu vous bénisse. C'est là ma prière. Voyez, l'aimez-vous? Croyez-vous en lui? Avez-vous ancré votre âme en lui? Courbons la tête, juste un instant. Tout doucement, calmement, chantons doucement. J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je n'entendrai jamais les murmures de ces cataractes qui viennent emporter mon âme au loin. Mais cela apportera une douce paix à mon âme. Doucement maintenant, avec respect, tout le monde.
I'm
que les rayons de gloire, Seigneur. Levons les mains vers lui. Aimeriez-vous avoir sa vie vivant en vous, reflétant sa présence? Si c'est ce que vous voulez et que vous ne l'avez pas encore reçu, voulez-vous vous lever pour la prière? Ceux qui voudraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, que Dieu vous bénisse. Restez debout maintenant, restez le long, vous serez un étranger pour le monde. C'est là mon désir. Maintenant, Père Céleste, beaucoup de gens se sont levés parce qu'ils désirent te recevoir. Ils sont fatigués de dériver, ne sachant pas où ils vont, entraînés par le flot de la vie. Ils savent que peut-être, avant le lever du jour, leur cœur pourrait cesser de battre. Alors leur âme, à la dérive, sera face à la grande cataracte, aux chutes devant eux. Ils ont été comme eux-mêmes, ils ont été comme le monde, mais ils veulent être comme toi maintenant, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, ils t'appartiennent, Père, parce que tu connais leur cœur et les intentions de leur cœur. Aussi, as-tu écrit puis exprimé par tes propres lèvres ceci, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Tu as aussi dit, Seigneur, « Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ils se rendent compte que le temps est proche. Ils ne peuvent plus dériver, Seigneur. Fais descendre la corde de sauvetage pour les attirer à toi, Seigneur. Puissent-ils aller de l'avant à partir de ce soir en reflétant la lumière de Jésus-Christ. Je te les confie, ô Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Puissent-ils humblement suivre le Seigneur en se faisant baptiser ici à l'Église. Mets le Saint-Esprit dans leur vie, afin qu'ils soient comme Jésus pour le reste de leurs jours. Nous le demandons en son nom. Vous qui êtes debout ou assis près de ces gens et qui êtes chrétiens, tendez la main, prenez leur main et serrez-leur la main. Posez la main sur eux. Que Dieu soit loué pour votre âme. Nos hôtels sont tous remplis d'enfants et tout. On ne peut pas les faire venir ici. Vous sentez-vous vraiment bien? Ne vous sentez-vous pas bien? N'êtes-vous pas heureux d'être chrétien? Serrez la main de quelqu'un qui est assis près de vous maintenant, alors que nous chanterons un cantique. Nous marcherons dans la lumière, dans cette belle lumière, la lumière du Seigneur Jésus-Christ, manifestée dans la chair. Tout le monde chante. Levez la main maintenant. Là-bas, au début, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, le message a continué jusqu'à Smyrne. Là se trouvait Irénée, le grand saint de Dieu, qui parlait en langue, avait la puissance de Dieu, ressuscitait les morts, guérissait les malades. Il marchait dans la lumière. Après lui est venu Colombin, le grand et puissant saint de Dieu. Beaucoup d'autres grands saints ont continué de porter le message, marchant dans la lumière de l'Évangile, la même lumière qui allait briller le jour de la Pentecôte. C'était Christ au milieu de son peuple, et les sept chandeliers d'or reflétaient son éclat radieux, comme le soleil au plus fort de sa chaleur. Nous voici en 1961. Levons-nous. L'aimez-vous? Ne plus jamais me tourner vers les choses du monde. Je suis mort au monde, et le monde est mort pour moi. Je marche seulement en Christ, conduit par le Saint-Esprit. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Il fait briller ses bénédictions sur moi, et il m'a donné la main d'association dans son royaume. Maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu, et ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Nous marcherons donc dans la lumière, une belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. L'aimez-vous? Vous savez, après un message si tranchant et tout, j'aime entendre les gens chanter des cantiques, entrer dans l'adoration et chanter par l'Esprit. Il n'y a rien de plus beau que de bons vieux chants, c'est vrai. J'aime les bons vieux chants pentecôtistes à l'ancienne mode. Pas ces voix surentraînées que l'on maintient jusqu'à couiner et avoir le visage bleu, sans même savoir ce qu'on chante. Je préfère quelqu'un qui chante faux, mais qui a quand même une bénédiction de Pentecôte. C'est à ce sujet-là qu'il chante. Oh, que ces chants mélodieux de la croix sont glorieux. Oh là là, notre cantique que nous chantons en nous séparant à présent. Revêt-toi du nom de Jésus. Oh toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Demain soir, à 19h, à 19h précise, les services vont commencer. Nous nous courberons devant lui, nous prosternons à ses pieds pour le couronner roi des rois. Le voyage terminé. Chantons tous ensemble maintenant. Thank you. Maintenant, nous avons terminé pour ce soir. L'heure vient de me demander maintenant s'il y aura un service demain matin. Non, pas demain. Reposez-vous bien demain. Peut-être que demain soir, je ne pourrai pas terminer ce message. Alors, je vais le continuer le lendemain. Chaque fois que je ne réussis pas à terminer un message, je le continue le lendemain. Mais nous avons fini ceci. Je crois que vous êtes déjà prêts pour les as de l'Église, n'est-ce pas? Très bien. Courbons la tête pendant que nous chantons doucement maintenant. Toute langue le confessera. Thank you.